Donc c'est ça un peu qui me frappe, c'est qu'on a accès au réseau, à Google, maintenant même il y a l'IA qui vient en compte, et au final les femmes restent quand même très confuses.
Bienvenue chez Healthwise, le podcast présenté par Sonde Naturelle qui nourrit votre santé, votre corps et votre esprit. Je m'appelle Noémie Jobard et ensemble, on explore tous les moyens d'être ou de rester en bonne santé. Médecine, sport, nutrition ou santé mentale, autant de sujets qu'on aborde ici avec les conseils avisés d'experts au service de votre bien-être. Un épisode, une thématique. C'est parti! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet aussi intime qu'universel, la libido. Un grand mot, parfois tabou, souvent source de doutes et de comparaisons. Chez les femmes en particulier, la libido s'accompagne de beaucoup d'injonctions et de malentendus. On se demande souvent pourquoi j'ai pas envie, est-ce que c'est normal, qu'est-ce qui va pas chez moi? La vérité, c'est que la libido féminine est cyclique, sensible aux hormones, au stress, à la fatigue, aux liens émotionnels, au moment du cycle. Mais tout ça, on nous l'explique pas forcément en détail. Et il reste souvent beaucoup de questions et assez peu d'espace de parole et d'écoute, tellement le sujet est intime, sensible et personnel. Alors, si vous n'avez jamais eu l'occasion de discuter libido féminine autour de vous, cet épisode est bien fait pour vous. Ensemble, on va parler de la relation que l'on entretient avec son désir, en passant par un outil simple mais puissant, la connaissance de son cycle menstruel. Pour ça, je vais poser toutes les questions qu'on n'ose pas toujours formuler, fluctuations, envie, ovulation, désir, hormones et énergie sexuelle. Le but, se réconcilier avec son corps et sa libido dans une société qui ne valorise pas toujours une sexualité cyclique, fluide, connectée à soi et à son corps. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir une invitée. Je vous présente Anaïs Cohen. Bonjour Anaïs.
Bonjour, merci de m'avoir du coup sur ce podcast.
On est ravis de t'accueillir ici à Berlin. Alors tu es conseillère certifiée en symptothermie et tu arrives aussi à donner des conseils en naturopathie et en phytothérapie. Tu accompagnes depuis plusieurs années des femmes et des couples à mieux comprendre leur corps et leur cycle grâce à la symptothermie. Une méthode de contraception dite naturelle, non hormonale, fondée sur l'observation du cycle. Alors, on va en reparler un petit peu plus tard dans le podcast. Mais je voulais d'abord apprendre à te connaître. Et du coup, on voulait savoir à quel moment tu as commencé à te spécialiser dans ce sujet en particulier.
Oui, donc moi, j'ai commencé à m'intéresser à mon cycle seulement en 2019. Parce que je prenais la pilule pendant quelques années, tout se passait très bien jusqu'au jour où ça ne se passait pas très bien.
Ah oui.
Et mon médecin m'a dit, bon, on va vérifier bien sûr, hein, j'avais des saignements en fait qui ne s'arrêtaient pas. Et donc, il fallait vérifier s'il n'y avait pas de fibrome ou de polype. Et une fois que ça, c'était évident que ce n'était pas le cas. Bonne nouvelle, c'est simplement la pilule qu'il faut arrêter.
Ah.
La pilule donc microdosée, donc la plus simple
ouais.
à supporter. Et je
et
ne la
pourtant,
supportais
il
plus.
faut l'arrêter quand même.
Il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter parce que c'était à cause d'elle, du coup, que j'avais cet effet secondaire quand même assez grave et très gênant. Et j'ai eu du mal à l'arrêter parce que tout simplement, je ne savais pas à quoi m'attendre. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir un cours de yoga dans lequel on a parlé de ce sujet et on m'a présenté la symptothermie comme alternative parce que sinon, c'était bon, madame, oui, préservatif, voilà.
Et c'est tout, hein.
C'est tout. Alors que je suis quand même quelqu'un d'assez parano, en fait, et je n'étais pas assez confiante dans l'utilisation des préservatifs seuls. J'étais en couple, ça se passait bien, et il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Mais voilà, on n'était pas prêt
D'accord.
pour un enfant, c'était pas le moment.
Du coup, c'était en cours de yoga.
C'était en cours de yoga, en fait, j'ai eu la chance d'avoir un cours de yoga assez intime. On était quatre en tout avec
Ah
la
oui.
prof. Et donc, à un moment, j'ai partagé le fait que moi, j'avais ce souci, que de toute façon, j'avais très peur parce que du coup, l'arrêt de la pilule, mais en même temps, pour ma santé, voilà, mon médecin m'avait dit quand même qu'il fallait arrêter la pilule. Qu'est-ce que j'allais pouvoir faire et qu'est-ce que ça voulait dire pour mon couple? Et puis, pour être tout à fait honnête, en plus, j'aimais pas tellement avoir mes règles, j'aimais pas tellement être une femme. Au contraire, j'étais plutôt contente avec cette pilule microdosée. Je n'avais plus de règles jusqu'au moment où j'avais mes règles tout le temps. Alors, ce ne sont pas des vraies règles, mais des saignements menstruels, enfin, des saignements vaginaux. Et du coup, qu'est-ce que j'allais pouvoir faire? Et on me dit, en fait, on t'a jamais parlé de cette autre option qui est naturelle. Donc tout de suite, moi, oh, naturelle. On me la fait pas,
Ouais,
ça ne marche
d'accord.
pas. Et au final, si en faisant mes recherches et en me formant pour mon couple, je me suis rendu compte, ah, mais si il y a quelque chose, et ça va bien au-delà en fait de la contraception, ça va dans l'acceptation d'être cyclique, la compréhension, c'était ce point-là qui me manquait pour, en fait, bah, faire la paix avec avoir mes règles, faire la paix avec le fait d'être une femme.
Mmh.
Et depuis, du coup, j'ai tout de suite voulu me certifier et je me suis certifiée donc en 2021. Pour pouvoir transmettre à d'autres femmes, j'ai créé mon compte Instagram Mes cycles, mes règles pour en parler. Et c'est devenu quelque chose, en fait, que je peux faire à plein temps. Et c'est assez incroyable de pouvoir, du coup, aussi partager ça avec d'autres femmes et d'autres couples. Je travaille vraiment avec les couples pour tout ce qui est contraception ou naturelle ou conception, parce qu'on peut aussi utiliser, du coup, le contraire. Et c'est une joie de voir que ça apporte beaucoup à tout le monde, au final.
Tu comprends en plus toutes les peurs, les doutes derrière ce que peuvent penser les femmes, même en venant te voir, parce que c'était un parcours aussi personnel de ta part. Donc, du coup, c'est bien de savoir que tu l'as vécu aussi récemment. Moi aussi. Tu sais, à Sunday, ça veut dire dimanche, le jour de la méditation, de la régénération, etc. Qu'est-ce qui est particulièrement important pour toi le dimanche ?
Ouais, le dimanche, bah, pour moi, c'est le seul jour de la semaine où je ne travaille pas. Donc, c'est le jour où je me permets de faire des choses que je ne peux pas me permettre de faire en semaine, c'est-à-dire me déconnecter.
Ah oui.
Donc, j'essaye de ne pas être sur les écrans. Bien sûr que, bon, y a toujours un moment où on est dessus parce que bah, soit il y a un appel, soit il y a un film ou je ne sais quoi. Mais j'essaye de limiter. Et rien qu'en limitant mon temps sur les écrans, eh bien, ça me permet d'aller voilà, faire une balade en forêt. Il y a une forêt, alors elle n'est pas juste à côté, mais je peux justement y aller, prendre ce temps pour être en forêt, aller voir des amis, me faire une activité artistique, manuelle,
ouais,
et ne
genre
pas
quoi
être... Alors, peinture, ou sinon, de nouveau, c'était mon gros hobby quand j'étais petite, les bracelets brésiliens.
Ah ouais,
c'est,
du
ouais.
Coup, tu tresses les bracelets.
Exactement.
Ah oui, ça vide bien la tête, j'imagine. C'est
exactement.
Trop cool. Et du coup, oui, tu peux te reposer vraiment intensément, au moins le dimanche.
Alors, reposer, mais après aussi mettre en mouvement, dans le sens où c'est aussi le moment où tu peux, bah, justement, aller faire du sport ou aller faire autre chose. En fait, tout ce qui te permet de te sentir connecté au moment présent, parce qu'avec les écrans, on est souvent déconnecté ou on est souvent surstimulé. Et donc, on a l'impression qu'on n'a pas le temps de faire ce qu'il faut faire. On se comprend, hein, de toute façon, dans le week-end, il n'y a pas assez d'heures pour tout faire. Mais en réduisant le temps sur les écrans, tout d'un coup, on se rend compte que, ah oui, je peux faire des choses. Et puis moi aussi, tout ce qui est nouvelles et compagnie, le dimanche, j'essaye d'éviter,
part,
comme
ouais.
Ça, voilà, ça me protège aussi un petit peu pour ma santé mentale.
On va pouvoir rentrer directement dans le sujet maintenant. Et on se demandait si une femme vient te voir en disant qu'elle n'a plus de désir, qu'est-ce que tu regardes d'abord dans son quotidien, dans son histoire, sa relation, peut-être avant de regarder son cycle.
Oui, au final, le cycle, il vient un peu après. On va toujours parler d'abord de son quotidien, de comment elle vit sa vie. Donc, en naturopathie, on appellerait ça l'hygiène de vie. Donc, tout ce qui se passe en termes de l'alimentation, du sommeil, ce qu'elle consomme, donc consommer alimentation, mais aussi les écrans, son travail. Est-ce qu'elle bouge beaucoup? Pas du tout. Trop, parfois.
Trop?
Ouais, ouais, on peut faire trop de sport. Et on essaye de voir à peu près avec ça, avec cette discussion, cette ouverture, qu'est-ce qui va ressortir. Et au début, c'est souvent, maintenant, ça marche bien, je mange bien. Et on va parler d'un petit quelque chose qui va faire penser à autre chose, qui va faire penser à autre chose. Et au final, on retombe toujours sur soit le couple, soit le cycle, ou les deux. Enfin, il y a toujours la possibilité, avec une conversation assez fluide, de toucher à tout. Mais au début, la première question, c'est... Voilà, racontez-moi un peu votre quotidien, une semaine normale, voilà comment ça se passe. Et puis des fois, en fait, ce qui ressort, c'est des choses par rapport à l'enfance. Hein. Des fois, c'est ça remonte très loin et c'est assez intéressant parce que ça vient avec le temps. Il faut laisser le temps à la personne de discuter, de parler.
Et remonter la pelote de laine.
Voilà. Parce qu'elle va dire, ah, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais ce qui me vient en tête là, c'est blabla. Et en fait, ce blabla, c'est pas du tout un blabla, c'est très intéressant. Donc, ça permet de mieux cerner, du coup, la personne et son besoin.
Et c'est presque psychologique aussi.
C'est très psychologique, en effet. Et en plus, et le point sur lequel on débute souvent, c'est qui dit qu'on a un problème ? Qui dit qu'il y a quelque chose à voir ? Est-ce que c'est la femme ? Est-ce que c'est, à force
l'homme.
De leur parler, voilà, c'est l'homme ? C'est dans le couple ? Ou est-ce que c'est avec les amis ? Des fois, on se compare, ou on voit sur Instagram, ou je ne sais quoi. Donc, on revoit un peu la définition pour savoir d'où vient, d'où est la source. Pourquoi est-ce qu'on vient me voir maintenant ? Pourquoi est-ce que maintenant, c'est un problème ?
Et je trouve qu'on s'intéresse de plus en plus au cycle. J'ai l'impression, en fait, même que il y a 10 ans, je savais pas trop quoi faire. Et puis il y a eu les apps qui sont arrivées pour vraiment pouvoir suivre son cycle. Quand est-ce que les règles vont arriver, etc. Aujourd'hui, tout le monde a ça, pratiquement une appli de traquage. Quand toi tu regardes l'évolution du rapport des femmes à leur cycle et à leur sexualité, est-ce que tu trouves qu'il y a quelque chose qui t'a frappé?
Oui, alors c'est un peu contradictoire dans le sens où je trouve ça très très bien qu'on ait plus de conversations. Il y a moins de tabous, on est moins en train de rejeter ce sujet. Avant, c'était non mais on parle absolument pas. Maintenant, on commence à libérer la parole, à partager. Le problème, c'est qu'on partage surtout les histoires qui sont douloureuses, où il y a des problèmes.
Ah oui.
Oui, c'est souvent ça qu'on va retrouver du coup sur les réseaux, que ce soit en termes de sexualité, que ce soit en termes de règles. On va parler de, par exemple, des dispositifs que les hommes peuvent mettre sur le ventre pour avoir les sensations de contraction
de douleur,
et de crampes,
oui,
voilà,
oui.
Pendant les règles. Parce que c'est douloureux. Avoir ses règles, c'est douloureux. Donc, on est en train de donner cette information que, de toute façon, être une femme, c'est beaucoup de souffrance. Et ça, c'est un peu dommage. Parce que ça arrive au point où les femmes viennent me voir, parfois, pour me demander, juste une question comme ça, mais j'ai pas mal pendant mes règles, est-ce que c'est normal?
Ah oui, à ce
Oui,
point-là.
à ce point-là. Donc, c'est à ce moment-là où je me dis, bon, c'est bien qu'on ait accès à tellement de connaissances et qu'on libère la parole. Et en même temps, on nous partage, pas forcément n'importe quoi, mais quand même
Le
sur les
côté
réseaux, tout,
négatif, oui.
voilà, ce sera plus une expérience négative qui va prendre le dessus parce qu'au final, quelqu'un va pouvoir avoir de l'empathie ou quelqu'un va se reconnaître parce qu'il existe, bien sûr, des femmes qui ont très, très mal pendant leurs règles ou très, très mal avant leurs règles et pour qui, voilà, être cyclique, c'est compliqué. Et on va leur donner du coup plus de place au point où les femmes, de façon générale, qui n'ont pas de problème cyclique, vont se sentir en fait anormales. Alors que c'est le contraire. C'est que voilà, si on a des douleurs, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un message du corps. Soit on peut venir soulager, soit malheureusement, il existe des maladies, on ne peut pas forcément les traiter, mais on peut au moins les diagnostiquer avec un médecin et au moins savoir ce qu'on a. Donc c'est ça un peu qui me frappe, c'est qu'on a accès au réseau, à Google, maintenant même il y a l'IA qui vient en compte, et au final les femmes restent quand même très confuses. Bon, par exemple, il y a toujours la confusion entre cycle et règles. Il y a encore des femmes qui me parlent de leur cycle qui dure 3-4 jours, quand elles parlent de leur règle qui dure 3-4 jours, etc.
Et est-ce qu'on peut lier la libido à tout ça? Parce que là, on parlait plutôt du cycle, mais... la libido, pareil, il y a la parole qui s'est un peu libérée, mais pas souvent, je trouve, sur les côtés négatifs justement de des problèmes qu'on pourrait avoir avec la libido, et encore moins lier la libido aux hormones. Est-ce que du coup, c'est vraiment lié aux hormones ou pas?
Ouais, c'est tout à fait ça. C'est vrai qu'il y a une grosse pression hein, pour tout ce qui est sexualité, libido. Et donc, on le voit. Alors, bien sûr, moi, je vais toujours parler par rapport à mon expérience, ce que j'ai pu entendre en consultation, ce que j'ai pu entendre dans mon entourage. Ce sera du coup, voilà, par rapport à mon point de vue. Je ne dis pas que c'est général. Mais c'est vrai que les femmes ont cette pression de se dire « j'ai besoin d'être comme ci ou comme ça ». En plus, avec l'introduction de la pilule, c'est vrai qu'il y avait en plus les femmes qui étaient... disponible, on va dire, pour les hommes. Alors que enceinte ou thermie, du coup, tout d'un coup, il faut prendre en compte la fertilité. Et donc, même s'il y a une libido qui est plus élevée à cause des hormones, eh bien, on ne peut pas être, justement, disponible à un rapport classique, on va dire. Et donc, quand on commence à s'intéresser au cycle, on se rend compte que, bah, si, au final, il y a bien un lien entre les hormones sexuelles et la libido. En fait, on va avoir 3 pics de libido. Donc, un pic au moment de l'ovulation, ça, tout le monde le comprend dans la théorie. Un nouveau pic après l'ovulation, donc dans la phase utérale, au milieu de la phase utérale, on va avoir un deuxième pic, quand on est donc infertile. Et on en a un troisième juste avant, pendant ou juste après les règles. Ça dépend des femmes. Et ça, pour le coup, ce pic-là, il y en a beaucoup, surtout celles qui ont leur pic pendant les règles, qui se rendent compte que, ah ben oui, oui, je me reconnais là-dedans. Surtout si en plus, elles sont gênées. Voilà, c'est un couple qui décide de ne pas avoir de rapport pendant les règles. Elles se rendent bien compte que, ouf, ouais, j'ai envie, mais je ne peux pas. Donc, il y a bien une influence du cycle, et c'est surtout une influence de la testostérone.
Ah oui, c'est la testostérone qui va faire monter la libido ou pas?
Oui, exactement. C'est, alors pour l'homme comme pour la femme, c'est surtout la testostérone qui du coup va augmenter et venir donc nourrir ce désir, nourrir cette libido.
La progestérone et l'œstrogène, ils font quoi pendant ce temps-là?
Donc en fait, les œstrogènes, ce sera surtout en première partie de cycle, en première moitié. Elles vont augmenter légèrement, petit à petit, jusqu'à atteindre un pic au moment de l'ovulation, et puis baisser. Et la progestérone, elle, c'est la reine de la phase lutéale, donc après l'ovulation. Hop, elle arrive. Elle est très différente des œstrogènes. Les œstrogènes, elles vont venir un peu donner un aspect séduisant
Ok.
à la femme, on va dire. Alors que la progestérone, c'est beaucoup plus rétrospection. Et c'est une autre énergie. Et c'est là aussi on voit des problèmes dans le couple parce que on passe d'une femme qui est plutôt dans l'aventure, plutôt dans la séduction, à une femme qui en fait a besoin de connexion, a besoin de temporel aussi. Et donc l'homme peut aussi se sentir un peu rejeté. Il se dit, mais la semaine dernière, tu avais envie de moi, et maintenant tu n'as plus envie de moi, alors que c'est juste une question d'envie. C'est pas lui le
Oui.
problème.
Là, pour moi, on a cité que trois phases du cycle, ovulation, phase lutéale, menstruation, si c'est dans le bon ordre.
Alors, si on prend dans le bon ordre, c'est les menstruations,
D'accord.
phase folliculaire, ovulation et phase lutéale. L'ovulation, c'est une phase ovulatoire, elle dure pas très longtemps. Mais voilà, on a surtout la phase folliculaire et la phase lutéale. Donc, folliculaire, c'est avec les œstrogènes, lutéale avec les progestérones. La progestérone, pardon.
Il y a une autre hormone auquel je pense, qui est aussi beaucoup discutée sur les réseaux. C'est l'hormone du stress. Est-ce que ça impacte aussi soit le cycle, soit la libido?
Les deux.
Les deux.
Alors le stress a un effet sur tout le monde,
Ouais.
sur toutes les hormones. On va avoir du coup, et surtout voilà, les femmes et les hommes, pareil. Et en fait, le cortisol, il va être là pour nous protéger, pour nous signaler qu'il y a un danger. Et donc souvent, s'il y a un danger, c'est pas le meilleur moment de tomber enceinte. Et donc il va venir en effet perturber le cycle, soit en retardant l'ovulation, soit en avançant les règles. Ça dépend si on est avant ou après l'ovulation, qu'on a ce stress. Je parle pas du stress chronique. Donc voilà, si on a un pic de stress, si ça arrive avant l'ovulation, on peut retarder l'ovulation. Si ça arrive après l'ovulation, on va potentiellement avancer les règles. Et il y a des personnes qui s'amusent du coup à jouer avec la durée du cycle comme ça, en se mettant
Ah
des stress.
ouais.
Ah ouais. Si on veut absolument pas avoir ses règles pour sa lune de miel ou en vacances, etc., il y a beaucoup de femmes qui me demandent comment est-ce que je peux contrôler. Et
Ah.
je leur dis, malheureusement, il n'y a même pas de garantie, mais c'est
Oui.
avec le stress, du
C'est
coup.
possible.
Ah, c'est possible. Donc un stress. Tout type de stress, donc un stress à cause du boulot, un stress à cause de l'alimentation, si on ne mange pas assez, le corps va se sentir en danger, hop, et il va, entre guillemets, gâcher cette grossesse potentielle, qu'on souhaite une grossesse ou non.
Du
Du
coup,
coup.
avant sa lune de miel, il faudrait faire beaucoup de travail, rester la nuit au travail.
Ouais, mais même là, il n'y a pas de garantie. Il y a des femmes pour qui
Ouais.
ça passe très bien. J'ai des infirmières qui travaillent de nuit. Normalement, il y a quand même un effet sur le cycle. Non, elles ont un cycle très régulier, très équilibré, tout va bien. Donc vraiment, c'est propre à chaque femme. On est toutes sensibles de façon différente.
On a mentionné les différentes phases du cycle, et là, avec les hormones et les pics de libido, est-ce qu'on peut aussi faire un petit tour du cycle avec les niveaux d'énergie, d'humeur, et voir à quel point ça influence le désir?
Tout à fait. Oui, parce que du coup, c'est pour celles qui ont déjà entendu parler du cycle menstruel, il y a souvent cette comparaison aux saisons.
Ouais.
Il y a
Nous, on a fait
quatre
un
saisons.
post sur Instagram
Voilà.
là-dessus, voilà.
Parfait. Et c'est vrai que c'est la meilleure image qu'on a parce que du coup, quatre phases, quatre saisons. Donc l'hiver, c'est les menstruations. Donc c'est à ce moment-là, on a souvent envie de
Les feux
prendre
qui
soin de soi.
tombent.
Voilà. C'est tout. Enfin, tout est encore un peu sous la neige. Tu vois, on voit pas encore tout ce qui peut pousser. On voit pas encore le potentiel. Et encore, il y a des femmes qui sont libérées, qui se sentent soulagées, qui vivent très bien leurs règles. Donc, ils disent, moi, l'hiver, je suis pas une très grande fan, mais mes règles, ça se passe bien. Puis, on a la phase donc folliculaire qui ressemble plus au printemps. Le renouveau, commence à se sentir bien, on a envie de sortir, on dit oui à tout. Des fois, trop. Et on a beaucoup d'énergie. Et là aussi, on a du coup la libido qui commence à monter, qui remonte un petit peu. Là, on sent qu'il y a un désir. Il y a un désir d'être vu, il y a un désir de vivre. Et ensuite, on a donc l'ovulation qui ressemble à l'été. Là, pareil, il y en a qui aiment beaucoup l'été, il y en a qui n'aiment pas tellement l'été. C'est pareil pour l'ovulation, il y en a pour qui, malheureusement, il y aura des symptômes un peu type prémenstruel qui vont arriver à ce moment-là. Mais pour la plupart des femmes, il y aura quand même cette impression de « je peux tout faire, je suis Wonder Woman ». Et c'est génial. En plus, les cheveux ont tendance à être encore plus jolis, la peau a tendance à être magnifique. Alors, on peut avoir un peu d'acné sur le, autour du menton, parce que c'est souvent lié aux hormones. Mais voilà, de façon générale, on se sent très bien et ça se voit. Et du coup, là, non seulement on a envie, mais en plus, on a tellement de charme qu'on peut séduire aussi, entre guillemets, plus facilement. Ensuite, on a donc l'automne, la phase lutéale. On recommence un peu à mettre sa veste, une écharpe, son manteau. Et voilà, on se reprend un peu dans un rythme plus doux, plus lent. Et là, en termes de libido, on peut avoir envie, mais c'est une autre... En fait, ce que je dis off coupe, c'est que c'est pas forcément une baisse de libido. C'est juste que c'est une autre façon de se connecter à l'autre. On a souvent plus envie d'une connexion émotionnelle, plus envie de se sentir en sécurité. On a besoin de plus de temps aussi. Pareil, pour se sentir excité, on a besoin d'un peu plus de temps. Donc, c'est très différent par rapport à la phase folliculaire où on se sent assez excité avec peu, on va dire, de désir, alors qu'en phase du test, si on a peu de désir, on va avoir peu de libido, on va avoir peu d'excitation par la suite.
Ok. Et menstruation, du coup, là, c'est le désir, il peut être très différent parce que tu disais qu'il y a des femmes qui vivent leur menstruation très bien et d'autres qui ont des douleurs, certaines qui ne veulent rien faire à cause du sang, j'imagine. Donc c'est très aléatoire en fait dans cette phase-là.
Oui, ça va dépendre de chaque femme et même de chaque couple. Donc on va prendre ça en compte quand on en parle en consultation. C'est vrai que je ne vais jamais chercher à prouver quelque chose, à dire que, mais oui, vous pouvez avoir un rapport pendant les menstruations, il n'y a pas de problème. Je ne vais jamais dire, avoir un rapport alors que vous êtes en train de saigner, c'est pas top.
De toute manière, ça ne change rien.
Voilà, ça ne change rien. Si on souhaite utiliser la symptothermie comme contraception naturelle pour éviter une grossesse pendant la phase des menstruations, eh bien, il faut te former pour savoir est-ce que je suis vraiment infertile pendant mes menstruations ou pas. Parce qu'il y a des femmes qui sont fertiles pendant leurs règles.
Parce que l'ovulation continue ?
Parce que l'ovulation est précoce, en fait. On va appeler une ovulation précoce si elle arrive avant le jour 12, en fait. Et du coup, si on ovule de façon précoce, eh bien, on est fertile de façon précoce, c'est-à-dire plus tôt que la moyenne. Et donc, on peut tout à fait être fertile pendant ses menstruations.
Ok, donc c'est pas un signe pour dire... Parce que des fois, on prend les menstruations, on dit oh, « j'ai mes règles, c'est bon, l'ovulation est passée ».
Ouais, exactement. Souvent, on se dit « ok, j'ai mes règles, donc l'ovulation était il y a 2 semaines, c'est pas toujours le cas. Et la prochaine ovulation sera dans 2 semaines, c'est pas toujours le cas. Et donc, il y a vraiment besoin de comprendre son cycle pour savoir « ok, est-ce que je suis en danger ou en risque d'avoir une grossesse non désirée ou pas ?» Et ensuite, ça peut aider, cette information peut aider justement certains couples à se dire « ok, bah du coup, en fait, avant, on n'avait pas de rapport pendant les menstruations parce qu'on ne savait pas trop. Maintenant qu'on comprend, on peut le faire. » Ou au contraire, pour d'autres, c'est « attends, on le faisait avant parce que je croyais que, mais en fait, peut-être que non. » Donc, on va réévaluer ce risque et éviter.
Et il se passe quoi quand les femmes n'ont plus de cycle, comme pendant la ménopause ? Parce que du coup, les pics doivent être différents
Du coup, alors, on a toujours des hormones dans le sens où c'est les surrénales qui vont prendre le relais. Donc, on a toujours des œstrogènes, toujours un tout petit peu de progestérone, mais c'est vrai qu'on n'a plus ces pics. Donc, pour certaines, en fait, la ménopause, il faut comprendre que la ménopause, alors la périménopause, se passe sur plusieurs années. C'est une dizaine d'années. Donc, on a vraiment besoin de prendre son temps et on vit un côté un peu anarchique avant d'être ménopausée. Mais une fois qu'on est ménopausée, pour certaines, il y a vraiment une libération dans le sens où ça y est, il n'y a plus de risque. Surtout pour les femmes d'aujourd'hui, hein, qui... Certaines ont encore la pilule, mais bon, beaucoup se disaient que ben, la pilule, c'était encore trop nouveau, donc elles n'ont pas eu. Et là, c'est... Ah, il n'y a plus de risque. Et du coup, il y a une augmentation de libido.
Ah oui.
Ouais,
pour même certaines, sans c'est, autant de testostérone.
Oui. Oui, parce qu'il y a toujours la surrénale qui marche. Après, il faut vérifier de nouveau donc, l'hygiène de vie. Hein. Est-ce qu'on mange correctement ? Est-ce qu'on a adapté aussi son alimentation par rapport au fait qu'on est ménopausée ? Du coup, ce n'est plus les mêmes besoins. Ce ne sont plus les mêmes besoins. Mais de façon générale, là, pour le coup, c'est vraiment psychologique. Ou si tout va bien de façon physiologique, psychologiquement, des femmes se disent « ça y est, je peux vivre pour moi. Et ça veut dire, du coup, pas de risque de grossesse. Donc, on y va. Et ça, c'est... Voilà, la libération, on ne va pas oublier hein, que le cerveau, c'est quand même le chef d'orchestre de notre système. C'est lui qui va décider si on va ovuler, par exemple. C'est lui qui va décider si on se sent en sécurité. Donc, on peut venir, bien sûr, parler... par le toucher, on peut essayer de communiquer avec une autre personne, mais ça passe beaucoup, beaucoup par le cerveau quand même. Donc, une fois que le cerveau peut lâcher cette peur, parce que c'est une grande peur, on n'en parle pas assez hein, de cette, cette,
oui,
cette,
cette
peur.
Oui, et c'est fou de se dire que là, maintenant, j'ai probablement cette peur.
Ah ben oui, parce qu'on nous a tellement appris aussi plus jeune que, attention, si tu as un enfant trop tôt, c'est mauvais.
Oui. Oui, c'est le cas, même
c'est
encore
oui.
aujourd'hui, à 30 ans, j'ai là... Mais on est tout ados. Non,
oui,
en fait,
exactement.
Pas du tout. Mais oui. Et même, on nous disait des trucs genre, tu peux tomber enceinte dans la piscine si quelqu'un a fait quelque chose. T'es là, mais non.
Mais oui, de nouveau, hein, alors que c'est quelque chose qui existe potentiellement un peu moins aujourd'hui. Je ne travaille pas beaucoup avec les adolescents, donc je ne pourrais pas dire avec confiance ce qui est dit. Mais c'est vrai qu'il y a un peu moins de mythes sur ça. Mais il y a beaucoup de choses hein, quand même qui sont partagées. Alors c'est pour ça qu'il y a... ouais, il y a des comptes Instagram à suivre pour savoir un peu ce que disent les plus jeunes. Mais c'est vrai que c'est très intéressant de voir qu'il y a de nouveaux mythes. Et il y a des choses que maintenant, même les enfants ont compris. Et parfois, pour certaines de mes clientes, c'est les enfants qui enseignent des choses à la maman. Pour dire, mais oui, tu sais qu'il y a besoin de ça. Par exemple, pour une conception... Nous, on a grandi avec, ok, c'est le spermatozoïde le plus fort, le plus beau, le plus dominant qui va venir pénétrer l'ovule. Maintenant, on dit, maintenant, en fait, ce serait l'ovule qui choisirait le spermatozoïde.
Ah oui, qui laisse rentrer.
Ouais.
Interesting. C'est renversement des rôles aussi dans la science.
Exactement. C'est aussi un bon rappel de comme quoi, en fait, on ne connaît pas grand-chose sur le corps humain, encore moins sur le corps de la femme. Et sur comment on se reproduit. Et ça, on le voit aussi pour les parcours PMA, du coup, les parcours de grossesse, donc médicalement assistés, que ça ne marche pas à tous les coups. On n'a pas encore compris exactement qu'est-ce que ça veut dire de pouvoir
La
créer la vie.
formule magique.
Exactement.
Et en parlant aussi des spermatozoïdes et du coup des hommes, eux, ils ne sont pas vraiment dépendants du cycle et visiblement, ils n'ont pas autant de fluctuations de libido.
Non, pas de la même façon que la femme. Ils ont des cycles quand même, mais après, alors ça, on va le voir surtout, bien sûr, pour un homme qui a donc un cycle, on va dire, d'un jour. Donc souvent le matin, ils ont plus de testostérone, et on le voit parce que souvent, ils sont en érection. Et ensuite, le soir, un peu moins. Donc ça baisse au cours de la journée, et c'est vrai qu'à la fin de la journée, ils peuvent être fatigués, ils peuvent ne pas avoir envie, ils peuvent ne pas avoir de désir, et en plus, on ne va pas oublier qu'on a tous la journée, du coup,
dans les pattes.
Dans les pattes. Et ça peut jouer, bien sûr, sur le désir et l'envie. Mais pour l'homme, il y a plus, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'il y a l'excitation qui peut venir avant le désir, alors que la femme, c'est le désir qui doit venir avant l'excitation. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce qu'on dit. Mais pour un homme, du coup, ça veut dire qu'il y a, il y a toujours ce potentiel pour créer le désir. Il y a toujours quelque chose. Et puis, il y a le stéréotype de toute façon, un homme a toujours envie.
Oui, ce qui n'est pas vrai.
Ce qui n'est pas vrai. Parce que lui aussi peut être perturbé par un stress. Il peut être perturbé par une peur. Il peut sentir la pression pour une performance. Par exemple, ça, c'est le cas pour beaucoup de couples qui sont en désir de grossesse depuis un moment. Surtout si, en plus, pour certains couples, la sexualité, c'est important, mais pas quelque chose qu'ils font très souvent. Eh bien, ils se retrouvent à suivre les recommandations d'avoir un rapport tous les deux jours ou au moins deux fois par semaine. Et au bout d'un moment, l'homme, physiquement, n'en peut plus. Et psychologiquement, n'en peut plus non plus, parce que la femme peut mal vivre le fait de ne pas tomber enceinte, mais l'homme aussi. Et donc, tout à coup, ils se retrouvent dans cette position de « est-ce que je suis vraiment viril si je n'arrive pas ?» à franchir cette étape avec ma femme. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à prendre en compte, en fait, dans le libido de l'homme. C'est pas que, c'est un homme, donc bien sûr qu'il a envie.
Mais du coup, potentiellement, ils peuvent avoir envie tous les jours si c'est un cycle d'une journée.
Oui, donc il y a ce potentiel d'avoir envie, surtout donc le matin, de façon physiologique.
Et les femmes, c'est pas possible.
Oh, les femmes, c'est possible d'avoir envie. Alors, tous les jours, on va parler d'autres hormones. Du coup, là, on parle beaucoup des hormones sexuelles. On ne va pas oublier que le corps est un système qui communique grâce aux hormones et aux neurotransmetteurs. Et du coup, on a toujours besoin, en fait, d'hormones pour savoir qu'est-ce qui se passe, l'hormone de la faim, du sommeil, etc. Et donc, il y a quand même des hormones qui rentrent en jeu. Mais en effet, ça va être peut-être d'autres hormones. Et même l'hormone du stress, par exemple, pour certaines personnes, la réaction, ça va être de se réfugier justement dans l'intimité, dans la sexualité. Donc vraiment, on est tous uniques, mais on est tous influencés, pour pas dire manipulés, par nos hormones.
Ok, on est manipulé par nos hormones, c'est marrant. J'avais listé quelques questions qui revenaient souvent tout à l'heure dans l'introduction. Pourquoi j'ai pas envie, est-ce que c'est normal? On a vraiment un jugement intérieur, presque mentalisé, sur la sexualité. Est-ce que quand on prend connaissance de son cycle et du coup de son corps, on arrive un peu mieux à se sortir de ces jugements, de ces comparaisons peut-être aussi, et on arrive un peu mieux à se ménager soi-même et se dire, ah, je comprends mieux pourquoi j'avais pas envie, je comprends mieux pourquoi parce que j'étais fatiguée là. Est-ce que on est un peu plus serein à ce niveau-là?
Oui, ben on est tous humains, surtout tous humaines. Donc il y a toujours une part de nous qui va se comparer à l'autre. On va toujours avoir peur de ne pas faire assez. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on comprend son fonctionnement, on apprend en fait à s'écouter, à se faire confiance. Et quand on s'écoute pas, on se rend compte que ben, oui, ça va pas comme on veut. Donc de toute façon, le corps, si on l'écoute, nous dira si c'est bon ou pas bon. Donc ça, c'est assez magique à voir parce que de nouveau, ça va en fait au-delà de la simple connaissance du cycle menstruel. Parce que observer son cycle, ça demande une certaine connaissance, une certaine compréhension. Mais on se rend compte, donc, symptothermie, hein, c'est symptômes. Thermie, symptômes, la glaire cervicale, le fluide cervical. Thermie, la température. Mais en fin de compte, c'est pas juste symptômes de la glaire cervicale, c'est symptômes, c'est tous nos symptômes. Toute cette énergie qui fluctue, tous nos envies aussi. Il y en a qui ont plus envie de salé en phase folliculaire, plus envie de sucré en phase lutéale. Ça va être les cheveux, comme je disais, ça va être l'odorat qui va être souvent plus prononcée en phase lutéale. Cette envie aussi que tout soit propre en phase lutéale, on l'a beaucoup plus. Et donc, à force, en fait, de comprendre comment on fonctionne, eh bien, on va pouvoir lâcher prise sur certaines choses. Au lieu de se forcer, de se dire, mais pourquoi est-ce que j'y arrive pas? Pourquoi est-ce que là, au sport, j'arrive pas à faire ce que j'arrivais à faire de nouveau la semaine dernière? On va pas rester au même niveau pour tout, parce qu'on se rend compte que, ben, on est cyclique, donc c'est pas comme ça, c'est temporaire. Et whoop! Alors les femmes me disent souvent c'est pour l'acné. Hein,
Ah
j'ai
oui.
vu que ouais j'avais de l'acné, mais je savais que c'était temporaire, donc whoop, je suis passée à autre chose. Et je comprenais pourquoi c'était là. Et on a pu du coup faire ce qu'il fallait. J'étais moins en train de me dire, ah, il a touché, il a créé
Ouais.
plus de problèmes.
Ou essayer de trouver des solutions déjà, alors que si c'est
Voilà.
temporaire, ça va partir,
Exactement,
quoi.
exactement. Et des fois, alors ça c'est surtout pour l'alimentation, c'est là j'arrivais la semaine dernière à me tenir à mon régime. Pour perdre du poids. Je mangeais moins et limite, j'avais même pas besoin de manger à midi, et tellement voilà, je travaillais, j'étais à fond. Et là, aujourd'hui, mais j'ai faim tout le temps. Dès que je commence à manger, je pourrais manger pendant des heures. Ben oui, le corps compense. En phase folliculaire, on n'a pas les mêmes besoins qu'en phase lutéale. Et du coup, hop, si on a un déséquilibre, bien on va chercher à l'équilibrer dans la phase suivante. Une fois qu'on a compris ça, on a beaucoup plus de compassion pour soi-même. Et donc, ça permet d'être plus patiente et de voilà, de pas
Et de
créer
s'adapter, même à
et de s'adapter.
adapter ses emplois du temps. J'avais vu une interview de Louane, la chanteuse, qui disait qu'elle prenait des sessions de studio recording pendant son SPM pour avoir plus d'émotions.
Ah oui, tout à fait. Alors, il y en a qui vont carrément utiliser cet outil pour en fait ce qu'on appelle faire du cycle syncing, donc synchroniser sa vie à son cycle. Ce qui est toujours intéressant, mais il y a des limites. On ne va pas
Oui.
tous pouvoir faire ce que fait Louane.
Oui.
On ne chante pas toutes comme elle, non,
Oui.
déjà de base. Donc il faut bien comprendre de nouveau qu'on est toutes différentes. Mais en effet, on peut en fait se rendre compte que notre cycle est une force, ou en tout cas nous amène des compétences qu'on n'a pas forcément à chaque phase. Donc par exemple, en phase lutéale, souvent, donc phase du SPM aussi, malheureusement, quand on a surtout un déséquilibre hormonal, eh bien, on va avoir plus de créativité, on va avoir plus de concentration qu'en phase folliculaire. Phase folliculaire, on peut être multitâche, on peut faire mille choses à la fois, mais on va pas forcément terminer.
Ouais, d'accord.
On a un peu plus de mal.
Oui.
Donc c'est très intéressant d'après justement connaître ça pour pouvoir créer une utilité. Après, on n'a pas besoin d'être utile à tout le temps. Mais c'est vrai qu'il y a cette utilité-là.
Et du coup, ça s'appelait comment ?
Le cycle thinking.
Cycle thinking. J'ai entendu déjà seed cycling.
Oui, seed cycling, c'est ça. Donc, c'est le fait de changer par son apport en graines, par rapport graines, où on est dans la seed et ses graines. Donc, en phase folliculaire, on va surtout proposer des graines de courge ou des graines de lin. Et en phase folliculaire, des graines de sésame.
Ok, c'est hyper simple.
C'est oui.
On parlait du coup des hormones qui étaient vraiment l'influence de notre cycle, de notre libido. Il y a aussi des méthodes de contraception avec et sans hormones. Est-ce que ça a aussi une influence sur notre cycle ?
Tout à fait. Donc, la prise d'hormones de synthèse, donc la pilule, le stérilet aux hormones, l'implant, l'idée derrière ça, c'est de bloquer l'ovulation. C'est comme ça qu'on peut éviter une grossesse, parce que s'il n'y a pas d'ovulation, eh bien, on ne peut pas être... il n'y a pas de fécondation. Mais s'il n'y a pas d'ovulation, il n'y a pas de fluctuation hormonale. Et du coup, en effet, on est très constante. Et donc, ça peut avoir un effet sur la libido. C'est d'ailleurs une des raisons, de nouveau, hein, je parle de mon expérience, mais on vient souvent me voir parce qu'on me dit, bon, ben, on veut arrêter la pilule parce que j'ai perdu ma libido.
Ah, perdu complètement
ah, ouais.
Et pas le contraire.
Non, non, pas le contraire. Je n'ai jamais encore eu le contraire. Alors qu'on pourrait se dire que, justement, vu qu'on a la pilule, on a plus envie parce que bah, voilà, il n'y a plus cette peur de grossesse non désirée. Et de nouveau, pour revenir à la question de tout à l'heure, on peut tout à fait avoir quand même très envie si, par exemple, on est dans une nouvelle relation. Parce que là aussi, c'est les hormones qui rentrent en jeu. C'est de l'oxytocine. C'est, voilà, c'est, on a fait les études. Hein, maintenant, on comprend que c'est comme si on était drogué quand on se met en couple pour les premiers mois. Et du coup, bah, on a envie tout le temps. Mais au bout d'un moment, la libido change, les hormones changent, heureusement, hein, sinon ce serait très fatigant pour tout le monde. Et on a ce qu'on appelle du coup plus des braises. Au lieu d'avoir feu, ça va être des braises.
Ah, d'accord.
Donc ça va être un autre type de libido, un autre type de désir, qui va peut-être demander un peu plus de temps pour voilà, rallumer, avoir une petite flamme. Mais c'est toujours là. Et c'est beaucoup plus réconfortant. C'est moins dangereux qu'une flamme,
qu'un grand feu. Du coup, là, tu nous as parlé de la pilule, qui est avec des hormones de synthèse. On a aussi l'implant avec des hormones, le stérilet avec des hormones, et un stérilet aussi au cuivre sans hormones. Et du coup, quand il n'y a pas d'hormones, c'est un cycle qui est normal, ça reste notre cycle naturel.
Oui, du coup, on parle beaucoup de contraception naturelle pour le stérilet au cuivre, parce qu'en effet, il n'y a pas d'hormones. L'idée derrière le stérilet au cuivre, c'est qu'en effet, il va venir marcher parce qu'il va créer une inflammation dans l'endomètre et il va être en plus toxique pour les spermatozoïdes. Donc il marche très bien, il permet quand même du coup une ovulation, donc il permet un cycle, donc en plus on peut s'observer, en plus on peut avoir donc ces pics naturels de libido, mais vu qu'il crée une inflammation dans le corps, eh bien on peut être plus fatigué et ça va avoir un effet aussi sur la libido. Donc on prend toujours en compte le fait que bah, le corps en fait se bat. Il se bat quand même contre un corps étranger.
Tout le temps.
Tout le temps. Et donc, ça peut quand même avoir un effet sur la libido. Mais l'ovulation, la fluctuation hormonale est toujours là.
Et du coup, il y a encore une autre porte ouverte, c'est la symptothermie. j'en avais entendu parler pour la première fois par un homme, parce que je parlais avec mon naturo de mon stérilet en cuivre. Et il me dit que c'était, même si j'avais du coup le stérilet en cuivre voilà, sans hormones, ça faisait pas rien au corps, c'est ce que tu viens d'expliquer là. Du coup, ça peut impacter l'albido, comme tu as dit. Et que si on était en couple et si on était assez... sécure, on va dire. on pouvait utiliser la symptothermie, je ne savais pas du tout ce que c'était la symptothermie. Est-ce que tu peux nous expliquer, avec tes mots à toi, ce que c'est exactement ?
Oui, avec plaisir. Donc, la symptothermie, c'est l'observation du cycle à travers la glaire cervicale et la température basale. Donc, c'est quelque chose qu'on va pouvoir mettre en place dans sa routine au quotidien. C'est pas une question de « Ok, mes cycles avant étaient comme ça, duraient 29 jours, donc je sais que mes prochains vont durer 29 jours. »
C'est pas un travail de détective à analyser avant.
Non, exactement. C'est pas des maths, c'est pas jouer au détective par rapport à ce qui s'est passé avant, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Et on fait ça chaque jour pour savoir où est-ce qu'on en est. Ça demande une formation, ça demande du temps. On va pas passer du jour au lendemain comme ça à une contraception naturelle avec la symptothermie. Il y a besoin d'environ 3 cycles pour commencer à comprendre son propre cycle pour ensuite mettre en place cette contraception naturelle. Mais c'est vrai que ça permet en fait de savoir, ok, je commence à me reconnecter à mon corps et à écouter. Parce que beaucoup de femmes n'ont jamais entendu parler de la glaire cervicale, par exemple.
Par exemple, moi, je pense que j'ai entendu, mais dans ce contexte-là, pas du tout.
Alors que c'est très très important et c'est grâce à elle en fait qu'on peut déjà tomber enceinte et c'est grâce à elle qu'on peut voir que l'ovulation est imminente. Après, en cytothermie, il y a pas mal de règles pour s'assurer qu'il n'y a pas de prise de risque en sachant qu'aucune contraception n'est efficace à 100%. Mais il y a vraiment cette possibilité en fait de comprendre son propre corps en sachant qu'en plus là aussi, il faut vraiment prendre en compte sa glaire à soi et pas celle qu'on peut voir en ligne. Parce que maintenant, il y a des photos, heureusement, entre
Ah oui, il y a
guillemets.
des
Hein,
photos.
il y a des photos qu'on peut trouver
Oh,
sur
l'historique
Google.
Google.
Donc, c'est d'un côté, c'est très bien parce qu'on enlève ce tabou.
Ouais.
Mais de l'autre, de nouveau, la comparaison, j'ai des clientes qui me disent, mais moi, ma glaire, elle ne fait pas comme ça.
Oui, encore la comparaison
Encore
qui
la
vient.
comparaison. Donc, c'est très compliqué, en fait, à jongler hein, quand on est toute seule, de se dire, OK, bah, du coup, de nouveau, est-ce que je suis normale?
Ouais.
Et c'est la question qui vient. Et ça, est-ce que je suis normale? Ça met un coup sur la libido. Parce que si je suis pas normale, bah, je n'ai pas cette option. Je ne devrais pas. Enfin, je ne vaux pas la peine. Et ça rejoint du coup tout ce qui est amour propre, etc.
Ouais.
Donc c'est très compliqué à démêler parce que c'est souvent quelque chose qui nous a été qu'on a appris, hein, pas forcément qui nous a été présenté, mais qu'on a appris depuis plus jeune et qu'on a intégré. Et maintenant, il faut déconstruire tout ça.
Ouais. Après, l'avantage, c'est que y a... moi, je connais assez peu de personnes qui sont passées à la symptothermie. Donc, du coup, si on est tout seul, faut un peu s'occuper de soi-même et pas trop comparer. Donc, c'est peut-être un avantage, on va dire. Mais du coup, techniquement, là, tu nous parles de glaire cervicale, de température. Comment on fait pour s'auto-observer? Toutes les douleurs, l'humeur, etc., on doit le noter dans un petit carnet. Ça se passe comment?
Alors moi je travaille avec ce qu'on appelle un cyclogramme, donc c'est un tableau d'observation. Je préfère le faire sur papier pour
Ouais.
beaucoup de raisons, mais il existe des applications qui permettent de faire ça, où en effet on va mettre potentiellement du coup en petite note comment on se sent, l'énergie, si on a eu des douleurs, voilà, des tensions à la poitrine, des douleurs au ventre, etc. Mais symptothermie, c'est vraiment à la base glaire cervicale, température basale, et on prend aussi en compte les règles, les menstruations. Donc c'est ces 3 indices qui vont nous permettre de savoir où est-ce qu'on en est dans le cycle et d'ouvrir et de fermer ce qu'on appelle la fenêtre de fertilité. Donc pour ça, on prend sa température au matin, donc dès le réveil.
Température comme
Interne pour le coup. Donc c'est pas
interne.
ouais, il faut que ce soit une prise interne pour qu'elle soit fiable.
En France, on apprend différemment peut-être qu'ailleurs, donc interne dans la bouche,
Ça peut être
sous
buccal,
bras,
rectal ou vaginal.
peu importe.
Peu importe, les trois sont pratiquement équivalentes. Buccal, c'est légèrement moins fiable, tout simplement parce qu'on a la possibilité en fait de mal mettre le thermomètre. Donc si on le met mal, eh bien, c'est pas une bonne prise de température. Donc c'est pour ça qu'on parle toujours de formation quand on parle de symptothermie.
Ah oui.
Mais voilà, rectal vaginal, ça marche plutôt bien dans le sens où il suffit entre guillemets d'insérer. Mais voilà, vu qu'on le fait tous les jours, surtout au début, faire ça dès le matin, c'est pas toujours simple. Donc buccal, ça reste entre guillemets le plus pratique. Donc on essaie de le
Quand
faire
même,
correctement.
du coup.
Voilà. Donc pour la température, c'est comme ça. Et pour la glaire cervicale, ça va être sous 2 formes. Ça va être la forme visuelle. Donc ça, c'est quand on va aux toilettes et qu'on peut trouver dans sa culotte ou au niveau de sa vulve quand on s'essuie qu'il y a quelque chose. Donc des fois, on va appeler ça une perte blanche ou des pertes. Des fois, c'est très visqueux. Des fois, c'est très étirable, très transparent. Tout ça, en fait, c'est la glaire cervicale. Donc
Ah,
c'est
ok.
différent des
Donc
pertes
ça,
blanches qui
c'est
sont en
vraiment un
sécrétion.
indicateur du cycle.
Oui, tout à fait. En fait, cette glaire cervicale, elle s'appelle glaire cervicale parce qu'elle est sécrétée au niveau du col de l'utérus. Donc on a le vagin et en haut, on a le col de l'utérus. Et en anglais, ce col, c'est cervix. Donc cervix
À
cervical.
votre service.
Voilà. J'adore. Du coup, on a cette glaire qui est sécrétée à ce niveau-là et qui est directement influencée par le taux d'œstrogène. Donc s'il y a un taux d'œstrogène qui est très élevé, elle va être très étirable, très transparente, très très fertile. On peut aussi la ressentir, c'est-à-dire en termes de sensation, on peut se dire ah ouais, je me sens un peu lubrifiée, un peu humide, un peu mouillée, ou carrément oui, un truc qui coule, je vais aller aux toilettes parce que je sens que
Ah
j'ai mes
oui.
règles ou il y a quelque chose là.
Et en fait, pas du tout.
Et en fait, pas du tout, on se dit, bon, ok. Et en fait, c'est cette glaire-là. Donc c'est très très intéressant parce que ça veut dire que c'est quand même accessible à toutes, sauf que beaucoup de femmes n'ont pas appris à s'écouter. Donc surtout, bah, même si elles n'ont pas pris de pilule, mais surtout quand elles ont pris la pilule, quand je leur parle de glaire cervicale et des sensations de visuel, on me regarde avec les yeux ronds, oh, c'est quoi ce truc? Je ne sais pas si je vais pouvoir.
Oui, parce qu'on appelle ça perte blanche, mais au final, il y a plein de couleurs, textures
Oui, en fait, perte
à voir.
blanche, c'est des sécrétions vaginales. C'est encore autre chose. Ce n'est pas lié
Ah, oh, d'accord.
aux œstrogènes. C'est plus par rapport, bah, s'il y a eu une pénétration ou si, bah, surtout les femmes qui ont un stérilet au cuivre ont tendance à avoir plus de sécrétions vaginales. Et donc ça, c'est les pertes blanches. C'est souvent du coup blanc et ça va se dissoudre dans l'eau plus facilement que de la glaire. La glaire, en fait, elle sera beaucoup plus compacte. Elle peut avoir un aspect aussi un peu blanc, un peu crémeux, mais si on met dans l'eau, ça ne va pas se dissoudre. Donc
Ok.
c'est encore autre chose, ouais.
Est-ce qu'il y a d'autres indicateurs à... Donc, on a dit température, perte cervicale.
Ouais, glaire cervicale
Ah oui,
et les
glaire
menstrues.
cervicale, j'ai mélangé les deux.
Ouais. C'est beaucoup de termes, c'est normal,
Oui,
hein, ouais.
j'apprends, j'apprends. Et il y a un autre,
Les
c'était
menstruations,
menstruation.
oui.
Et donc là, qu'est-ce qu'on va regarder pendant les menstruations?
Alors déjà, on va vérifier que ce sont bien des menstruations, parce qu'il y a des femmes
Ah oui,
qui,
des saignements.
exactement, qui ont des saignements, donc soit au moment de l'ovulation, et des saignements assez abondants, hein, comme des règles.
Ouais.
Et il y en a d'autres qui vont avoir des saignements de façon anarchique, c'est-à-dire qu'elles ont des cycles assez longs. Et puis, ah, enfin les règles.
Et en
Et
fait, non.
puis, en fait, non. C'était juste qu'il y a eu un taux d'œstrogène tellement élevé que l'endomètre, qui est influencé par le taux d'œstrogène aussi, s'est épaissi, 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 et commence à saigner parce qu'en fait, il est trop épais. Et donc, on a des saignements, on se dit, c'est les règles, c'est bon, je commence un nouveau cycle, alors qu'en fait, c'est juste des saignements intermenstruels. L'ovulation se prépare encore. Donc, ça, c'est encore plus le cas pour les femmes qui ont des cycles qui durent plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est
Ok.
vraiment des cycles longs où l'ovulation arrive au-delà du jour 50.
Ah ouais. C'est long. Est-ce que il y a des perturbateurs dans tous ces indicateurs-là? Je pense, je sais pas. Il y a des fois où on est peut-être moins bien, plus fatigué, on a bu de l'alcool, etc. On est malade, et du coup, ça change, les signes.
Tout à fait. Bah, du coup, c'est vraiment, vu qu'on pour la température basale notamment, c'est très sensible. Et du coup, si on est malade, si on a de la fièvre, ça va se voir. Si on a bu de l'alcool, ça peut se voir. Si on est stressé, on a eu une dispute avec je ne sais qui la veille de la prise de température, ça peut se voir. Si on a voyagé, il y a un décalage horaire, etc. Tout peut se voir. Si on va déménager, s'il y a un événement heureux qui approche, ça peut aussi perturber la température. Oui, mais il y a beaucoup de choses qui sont visibles. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup utiliser le cycle ou le cyclogramme pour en fait proposer des choses aux femmes que j'accompagne parce que c'est le cycle qui va me parler aussi. C'est le cycle qui va me dire, ah bah tiens, le sommeil là, il n'était pas de qualité. Alors, là, tiens, il s'est passé quoi ce jour-là? Oh mais rien, rien. Ah oui, parce que moi là, du coup, la température, elle est quand même assez élevée. Le lendemain, il n'y avait rien. Donc elle regarde son agenda. Et bah non, j'ai eu ma belle-mère qui est venue dîner.
Ah
Ouais, tu t'entends bien avec elle? Non.
ouais. Ouais.
Voilà, donc c'est vraiment très intéressant de pouvoir en fait lire ensuite ce cyclogramme comme une carte pour savoir, ok, sur qu'est-ce qui est perturbant pour toi?
Ou qu'est-ce qui me perturbe?
Voilà, exactement. Qu'est-ce qui va venir en fait avoir une influence sur toi? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Il y a des femmes qui se sont rendues compte qu'elles faisaient de l'apnée du sommeil grâce à ça. Il y en a qui se sont rendues
Ah
compte qu'elles avaient
oui.
des problèmes de thyroïde à cause de ça. Vraiment, c'est très très riche.
Oui, parce que du coup, on écoute tout de son corps. Et tout ce qu'on a fait avant, après, dans la journée, qui j'ai vu, etc.
Le cycle, en fait, est un reflet, hein, de notre bien-être et du coup, on l'utilise vraiment en tant que tel parce que s'il ne va pas bien, c'est qu'il y a quelque chose d'autre. Des fois, il va bien alors qu'on va pas très bien. Hein. Des fois, il se dit, non, mais c'est bon, on continue, il n'y a pas de souci. Et des fois, il va vraiment dire, non, mais là, c'est pas possible. Et c'est en fait très bon pour nous, ça nous donne un signe que, ben, en fait, non. Et d'ailleurs, les médecins proposent quand même, enfin, posent cette question quand même souvent quand on va les voir, c'est quand étaient vos dernières règles, ça date de quand?
Oui.
Parce que si c'était il y a 3 mois et que vous ne prenez pas la pilule ou d'hormones, c'est pas normal.
Ouais.
Il y a un
Oui,
truc.
là, c'est plus grave. Après tout ça, et même que tu m'en parles là encore aujourd'hui, j'étais pas aussi convaincue parce que on disait tout à l'heure cette peur de tomber enceinte qui est assez grande, et même il y a une sorte de choses qui est implantée où il nous faut un système de protection, de blocage, et que s'il n'y a pas de préservatif en plus, c'est pas fiable et c'est pas serein. Comment on fait pour rendre ça fiable?
Ouais. J'aime beaucoup cette question parce que je m'y retrouve, parce que comme je disais, moi-même, j'étais vraiment très sceptique hein, de cette
Ouais.
méthode. Et le truc, c'est que j'ai pu l'utiliser même en tant que célibataire quand j'avais encore
Oui.
des
Ah oui.
rapports. Hein. C'était, ouais, je l'utilisais alors pas toute seule, mais en complément du
En
préservatif.
complément, ouais.
Donc j'avais les préservatifs, de toute façon, hein, il faut le préservatif quand on n'est pas encore testé, donc pour protéger
MST?
des MST, mais, ou des IST, je pense qu'on dit maintenant,
Je le dis
infection, ouais.
dans une autre langue,
Oui,
peut-être.
mais des IST. Et du coup, on s'est rendu compte que vraiment l'idée, même en couple où tout se passe bien, on est voilà, stable,
Ouais.
eh bien, si on ne souhaite pas une grossesse, il vaut mieux éviter ces jours où on voit justement où on ressent cette glaire très fertile. Parce que ça veut dire que l'ovulation est imminente et du coup, il y a quand même plus de risques si on ne souhaite pas de grossesse qu'il y ait une grossesse si bah, le préservatif se déchire ou même avec le stérilet au cuivre. Vu que l'ovulation a quand même lieu, si jamais un spermatozoïde survit, il peut venir féconder l'ovule.
L'ovule.
L'ovule va venir dans l'endomètre, pas forcément trouver un petit coin dans l'endomètre. S'il ne trouve pas, il va potentiellement retourner dans la trompe de Fallope et s'installer là. Et du coup, on a une grossesse extra-utérine, donc dangereux, on peut, voilà, c'est très grave. Donc, si on veut éviter tout risque, eh bien, on évite ces jours de grande fertilité.
Et du coup, c'est des jours, des périodes, c'est des fenêtres assez grandes. C'est quoi les...
C'est souvent 2 ou 3 jours pour la grande
Ah, c'est
fertilité.
tout?
C'est tout. Mais pour la grande fertilité,
Ah
on
oui.
reste fertile. Une glaire fertile est une glaire fertile. Non, une glaire fertile est une glaire fertile. Mais elle est très fertile le plus on s'en avance vers l'ovulation. Sauf que l'ovulation, on ne peut jamais garantir qu'elle va arriver voilà, dans 2, 3 jours. On peut se dire qu'elle approche. Hein, on peut se dire qu'elle est imminente. On peut dire que voilà, si tout se passe bien, elle arrivera peut-être demain, après-demain, on verra. Mais il suffit d'un stress, voilà, un accident. Quelque chose, un deuil, on apprend le décès de quelqu'un, pouf, eh bien, c'est tout décalé. Donc, on reste toujours ouverte au fait que ben, on ne sait pas de quoi sera fait demain, donc on fait attention. Et c'est là
Et du coup, on
petit
fait attention avec la température, justement, en disant c'est toujours pas la l'ovulation
Oui,
ou...
alors il y a cette. Merci d'en parler, parce qu'en effet, il y a vraiment cette confusion pour la température. En fait, la température, elle vient confirmer ce que dit la glaire. C'est-à-dire qu'elle va augmenter, en fait, on a un plateau bas. Avant l'ovulation, la température fluctue, mais bon, reste plutôt basse. Et elle augmente légèrement après l'ovulation. Donc, elle ne va pas nous indiquer que l'ovulation approche. Elle va nous indiquer quand l'ovulation est passée. Alors, attention, ovulation passée ne veut pas dire qu'on n'est plus fertile. Hein. Il y a aussi,
Ouais.
là aussi, des petites choses à mettre en place pour éviter une grossesse non désirée. Mais, voilà. Donc, la température est intéressante après coup. Avant l'ovulation, c'est vraiment la glaire qui va nous dire attention, tu es un peu beaucoup à la folie fertile.
Ok. Je vais revenir à ce qu'on a parlé beaucoup depuis le début, c'est de se reconnecter à soi et peut-être se reconnecter aussi à ses sensations physiques, sortir de notre jugement, de notre tête et de se tourner plutôt vers quelque chose de plus intuitif. Comment on fait vraiment pour faire cette transition?
Oui, en fait, c'est une déconstruction à faire. Parce qu'en effet, on nous a appris, inconsciemment ou consciemment, à observer ses pensées, à réfléchir. Il faut bien réfléchir avant d'agir. Donc, on utilise sa tête, on utilise son esprit. Sauf qu'on a tout un corps et qu'on ouvre aujourd'hui la porte au fait que, ah oui, mais les intestins, par exemple, c'est très intéressant, c'est notre deuxième cerveau. De voir qu'en fait, ah oui, le cycle menstruel, en fait, c'est un pilier de santé pour les femmes. C'est pas juste, voilà, tu as tes règles ou pas tes règles.
Oui.
T'as un bébé ou pas de bébé. Non, la fertilité, c'est pas juste bébé ou pas bébé. C'est au-delà de ça. Et tout ce qui sera bon pour la fertilité, en réalité, c'est bon sur autre chose. La fertilité, elle est le reflet d'autre chose. Donc, ça me fait très beaucoup rire parce que quand je vais dans les salons ou autres, on me dit, ah, tiens! On travaille avec le cycle menstruel, ça c'est très bon pour le cycle menstruel, j'ai envie de dire, mais tout est bon pour le cycle menstruel. Du moment que c'est bon pour la personne, du moment que ça vient gérer du coup une carence ou un besoin, on va le voir dans le cycle menstruel. Donc l'idée, c'est en effet de pouvoir, bien, ouf, pas forcément se déconnecter de son cerveau, mais lui annoncer qu'on s'intéresse à ce qui se passe dans l'utérus, on s'intéresse à ce qui se passe dans le corps. C'est pour ça que la méditation aussi, le yoga par exemple aussi, ce sont des activités qui vont permettre en fait de rebrancher connexion cerveau et le reste du corps. Et au fur et à mesure du temps, c'est pour ça aussi que j'aime utiliser le cyclogramme papier, parce qu'à force d'utiliser le stylo pour remplir, le cerveau va se dire « Ah, on s'intéresse à ça. Ok, bon, on s'intéresse à ça. » Et ça va se faire plus facilement que si on utilise une application. L'application, on appuie, ça ne fait pas la même connexion. Et donc, ça a été étudié pour apprendre une nouvelle langue, etc. C'est mieux d'écrire. C'est pareil pour le cycle menstruel. Si on veut s'intéresser à ça, eh bien, ça prend du temps. Mais à force d'écrire, c'est intéressé, le cerveau va se reconnecter au reste du corps et on va devenir un tout. Et c'est pas une question de se déconnecter juste et éteindre le cerveau.
Oui.
C'est reconnecter avec tout ce qui se passe dans le corps. Et il y a des femmes qui me disent, mais là maintenant j'ai mal à la poitrine, ouais. Je dis, ah mais c'est une douleur ou est-ce que c'est une tension? C'est différent. Non, c'est une tension, ça me gêne pas, mais c'est juste que moi je le sens. Bah oui, parce que le cerveau a compris que on écoute le corps, tiens. Une information en plus.
On est plus alerte aussi.
Exactement.
Si on a les choses en tête qu'on doit observer, alors on reconnaît un peu plus rapidement peut-être.
Exactement. Les choses. Pareil. C'est exactement ça. Et c'est pareil pour la glaire cervicale très fertile. Quand on sent que ça coule, j'ai besoin d'aller aux toilettes, c'est parce que danger. J'ai mes règles, je vais peut-être tacher mon pantalon. Et du coup, pour le reste du temps, on dit, mais je n'arrive pas à voir. Mais si on apprend au cerveau à faire attention, si on associe des gestes à des observations pour prendre l'habitude et faire des... Voilà, on a tout besoin d'auto-automatisme. Hein. On a besoin de que ça soit simple parce que le cerveau va toujours faire des raccourcis. Donc, on fait au plus simple. Eh bien, à force, on va se rendre compte que, j'avais bien ça, c'est juste que je n'ai jamais fait attention.
Quand on est en couple, on a l'impression que c'est le travail de la femme de faire tout ça.
Oui.
Comment on fait pour... apporter ça dans l'intimité, il faut éduquer les deux personnes, il faut communiquer, il faut faire la police du cycle, qu'est-ce qu'il faut faire?
Oui, c'est vrai que c'est pour ça que j'aime beaucoup quand c'est un couple qui vient me voir, parce que je me dis, ok, vous avez compris que c'est pas juste à la femme de faire attention. De nouveau, par rapport à la disponibilité, la femme n'est plus disponible comme avant. Donc il faut déjà aussi déconstruire la sexualité et se dire, c'est pas juste pénétration, éjaculation et c'est fini. Donc, on revoit tout ça. On revoit aussi le fait que du coup, la femme va s'observer, certes, mais si elle est fertile, lui, il est fertile tous les jours. Un homme est fertile tous les jours. Donc, si elle est fertile, le couple est fertile. Le couple est fertile. Donc, j'essaie de vraiment faire attention aux mots utilisés pour que l'homme se sente aussi inclus, qu'il fait partie de la conversation. Et ensuite, dire potentiellement pour observer le cycle. En effet, pour la glaire, etc., ça va être compliqué pour lui d'avoir les sensations de sa partenaire, mais il peut, par exemple, vérifier la température, noter dans le cyclogramme, analyser le cycle. Et du coup, ça peut être vraiment un travail d'équipe pour que ce soit vraiment...
Et du coup, lui, comme ça, il peut savoir quand jouer ses cartes.
Exactement. Lui, après, il peut préparer. Alors, j'aime beaucoup aussi cette idée de toute façon, la sexualité doit être spontanée, etc. Non, c'est pas toujours le cas. Et puis, même quand on était jeune couple, un jeune couple... prépare quand même un petit peu, il y a toujours un peu ce moment de « Ok, s'il y a ça, je vais peut-être mettre une lingerie plus sexy, ou je vais peut-être, surtout pour la femme. » Alors qu'au bout d'un moment, on s'en fiche, si on n'a pas la lingerie sexy, on est en pyjama, ça se passe quand même très bien. Mais en effet, on retrouve potentiellement cette question de « Ok, on n'a pas pu pendant 2-3 jours ce qu'on voulait absolument pas de grossesse non désirée, potentiellement 5-6 jours, surtout quand on est débutant. Et du coup, quand on va pouvoir se retrouver, quand on va fermer cette fenêtre, eh bien, on va se préparer peut-être un dîner ou un truc. Il y en a aussi qui ont des petits signes. Donc, ils ne vont pas forcément communiquer en remontrant le cyclogramme, mais avec... mais avec une fleur, un bouquet, un vase qui sera posé d'une certaine façon sur un certain meuble.
Ah, c'est sympa.
C'est assez sympa. Il y a des couples qui sont vraiment très créatifs et c'est à chaque fois, en fait, de voir qu'est-ce qui est bien. Est-ce que c'est de parler directement? Est-ce que c'est au contraire de laisser un petit message? Il y en a qui aussi vont mettre, du coup, un tissu, et s'il est retourné, c'est-à-dire que en fait, non, l'autre personne a dit qu'elle n'est pas intéressée, comme ça, il n'y a pas ce conflit ou ce besoin de dire non, j'ai pas envie, et de blesser l'autre, parce que bien sûr qu'on n'a pas envie de blesser l'autre. Donc vraiment, c'est à chaque couple de trouver un peu sa façon de communiquer sur le sujet, et de se rendre compte que c'est aussi, on revient sur le côté disponibilité, il y a certaines femmes, surtout au début, qui se disent ok, une fois que je confirme mon ovulation, que je peux fermer du coup ma fenêtre de fertilité, on doit avoir un rapport. Parce que justement, à cause de moi, on n'a pas pu avoir de rapport pendant une semaine, par exemple. Et du coup, y a ce côté un peu forcé, alors qu'elle n'a pas forcément envie. Ouais. Donc de nouveau, c'est OK, on a le temps pour retravailler le désir, revoir aussi qu'est-ce que ça veut dire. C'est pas juste OK, c'est bon, on y va parce que je ne suis pas fertile. C'est Est-ce qu'il y a cette connexion? Est-ce que tu le désires lui maintenant? Sinon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour que... Ou qu'est-ce qu'il peut faire pour se rendre plus bah, désirant?
Ouais.
Désireux. Enfin, il y a vraiment ce côté un peu de... On a peur, en fait, de ne pas être à la hauteur. Et en même temps, on prend tout sur nous. Surtout en tant que femme. Bien sûr, je parle aussi de nouveau parce que je parle beaucoup aux femmes. Les hommes se confient quand même beaucoup moins, surtout avec la femme juste à côté. Mais les femmes se mettent beaucoup, beaucoup de pression. Donc, c'est vraiment sympa de voir que... Malheureusement, mais heureusement, c'est elle qui se met cette pression. Et du coup, en communiquant, en ouvrant la porte, on se rend compte que, ah ben non, on peut trouver une solution. On peut trouver, alors pas un compromis, parce que compromis, ça donne l'impression que, bah, il faut quand même se mettre, se sacrifier quelque chose. Mais, voilà, trouver une solution, trouver une alternative. Et ça peut être très agréable, du coup, pour tout le monde, dont les femmes qui ont en plus des... Bah, soit des troubles de libido, soit des troubles hormonaux, des choses qui font que, bah, de toute façon, la sexualité, à la base, c'est compliqué.
Je pensais là au couple de femmes.
Ouais.
Je ne sais pas si c'est déjà arrivé qu'elles viennent ensemble venir te voir. Et même la question auquel je me pose, c'est est-ce qu'au bout d'un moment, elles sont cinq, elles sont synchronisées entre elles pour avoir ces pics-là aussi?
Oui, alors j'ai pas du coup assez de couples de femmes pour pouvoir te dire si c'est oui ou non. J'en ai vraiment pas assez, donc ce serait anecdotique, mais pour moi c'est du 50-50. Dans ce que j'ai pu voir. C'est du 50-50.
50%,
50% sont synchro,
50%, 50%
sont pas du tout synchro. Après, j'ai pas creusé la question dans le sens où j'ai pas vu si... Parce qu'il y a des couples donc, qui sont entre femmes, mais voilà, où une des femmes ou les deux sont... bisexuel, et du coup, peut-être qu'il y avait un homme, et du coup, il y avait peut-être une contraception hormonale par le passé, qui potentiellement a déréglé quelque chose. Mais j'ai pas creusé, parce que c'est pas mon sujet avec elle. Mais c'est... Ouais, j'ai du mal à voir si c'est vrai ou pas, cette question de synchroniser, parce qu'on l'entend beaucoup, et je l'entends même pour des femmes qui sont juste en colocation avec d'autres femmes, qu'elles sont bien synchronisées.
Mais, je me dis déjà, s'il y a deux des personnes impliquées qui se connaissent vraiment bien et qui peuvent vraiment connaître l'autre aussi en détail, vraiment, c'est des petites choses. Et alors, la communication, elle doit être vraiment très renforcée.
Ouais.
Et du coup, c'est vrai que si déjà les hommes aussi se sentent un peu plus... inclus dans la conversation, c'est déjà mieux, mais c'est vrai que si les femmes des deux côtés le font, c'est incroyable.
Oui, les femmes, de toute manière, c'est une autre histoire. Hein. C'est vrai que c'est pas toujours simple. Alors là, on va aussi prendre en compte le temps de la relation, c'est-à-dire depuis combien de temps est-ce que le couple est ensemble, parce que ça joue aussi. Mais les hommes, une fois qu'ils sont impliqués, c'est très intéressant, et c'est surtout que parfois, ils ont envie d'être impliqués. Pas tous, hein, mais certains ont envie, mais n'osent pas. Ou la femme ne veut pas. Et ça, c'est de nouveau à chaque couple de voir qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on gère ça. Parce qu'il y en a, alors ça, c'est en plus pour la conception, potentiellement. Mais il y a un désir aussi de venir me voir pour être justement seule, pour pouvoir parler d'un peu tout, sans avoir cette peur du jugement de l'autre, de la peur de blesser l'autre. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte. Mais... les hommes sont intéressés, ou ils ont ce potentiel, donc il a été nourri ou pas. Mais c'est très intéressant lorsqu'ils sont là, parce qu'on se rend compte qu'ils attendaient une invitation.
D'être invité à comprendre le corps, oui. Pour comprendre le corps aussi, on essaye un peu de savoir nos influences. Et le SPM concernerait 20 à 40% des femmes en âge de procréer. L'endométriose, une femme sur 10. Les troubles hormonaux, il y en a tellement, on peut même pas savoir. Et comment on apprivoise ces libido en fonction de ces troubles? Parce que du coup, l'endo... il y a énormément de douleurs. Le SPM, pareil, pendant une certaine phase, c'est plus compliqué. Comment on fait tout ça?
Oui. Le SPM, j'aime beaucoup en parler, tout simplement parce qu'on le prend comme acquis. On se dit, mais de toute manière, le SPM fait partie de la vie d'une femme. Alors que non. C'est souvent le signe d'un déséquilibre. Et du coup, en creusant, on se rend compte que c'est souvent la progestérone du coup, qui est en déficit. Et donc, on a une phase utérine qui est trop courte. On a des règles ensuite qui sont hémorragiques. Enfin, c'est très compliqué. Et du coup, en effet, on a plus tendance à être irritable, à être émotionnel, à être fatigué. Voilà, c'est compliqué d'avoir une libido quand on a l'impression qu'on doit tout gérer toute seule. Donc là, il faut revoir qu'est-ce qui s'est passé plus tôt dans le cycle. Déjà, chercher à équilibrer le cycle. qu'est-ce qui s'est passé plutôt dans le cycle, plutôt dans la relation, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la relation qui ne va pas, parce qu'en fait, en phase du tel, on est tellement plus en rétrospection que potentiellement, c'est le signe qu'il y a quelque chose dans notre vie qui ne va pas. Parfois, c'est le travail. Parfois, c'est le couple. Parfois, c'est la situation dans la famille. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à prendre en compte. Et on va être plus sensible à ça parce que ben, c'est le corps qui essaie de dire « mais tu ne vis pas ta vie ». Donc le SPM, je le prends vraiment à part par rapport à d'autres choses, alors que l'endométriose, par exemple, c'est encore plus compliqué dans le fait que souvent, les femmes vont avoir en plus des douleurs lors d'un rapport, dans certaines positions. Et donc, ça, ben, on n'en parle pas, mais c'est sûr que si on a mal pendant le rapport, on n'a pas de
la
libido.
Peur bah, aussi oui. du rapport.
Exactement. On n'aura pas envie d'aller dans ce coin-là, parce que de la vie, dans cet aspect-là, parce que, eh bien, on va avoir mal. Donc, pourquoi souffrir ? Donc, essayer de comprendre dans quelle position on a mal, essayer de voir s'il y a des moments dans le cycle où c'est mieux. Et surtout, pour celles voilà, qui ont du vaginisme aussi, enfin, il y a tellement de choses en fait, qui sont liées à une douleur, on va dire, physique, mécanique. Enfin, voilà, c'est pas forcément psychologique, mais qui devient psychologique parce que bah, on appréhende. On appréhende, donc on n'a plus envie. Donc, bah, ça fait qu'au bout d'un certain temps dans la relation, et ben, l'homme dit, tu sais que ça fait un an qu'on n'a pas eu de rapport. Et là, du coup, c'est plus une conversation. Ça fait tellement longtemps que ben, lui en veut à sa partenaire. Sa partenaire, du coup, se dit, mais je pensais que c'était OK parce que t'as rien dit avant. Se sent coupable, etc.
Frustré.
Ouais, il y a beaucoup d'émotions à venir creuser. Donc pour ça, il faut toujours... Moi, je propose toujours de manière... Hein, dès que je vois le besoin d'aller voir soit un thérapeute de couple, soit un médecin. Voilà, il y a toujours besoin d'un accompagnement en plus. Mais aussi de voir, OK, bon, bah du coup... Qu'est-ce qui se passe dans le cycle qui pourrait nous dire que bah, de toute façon, en effet, il y a un déséquilibre. Des fois, c'est un déséquilibre dans la charge mentale. Dans le fait que, bah, en fait, tu vois, là, ta copine, elle te dit toujours quoi faire. Peut-être que pendant cette phase-là, alors je dis pendant cette phase-là, c'est la phase du TL, mais souvent, ce que je veux dire, c'est après, pendant tout le cycle, essaye de voir comment toi, tu peux aussi aider. Oui, avant, on faisait comme ça. Maintenant, c'est différent. Maintenant, elle dit qu'elle ne veut plus faire ça. Donc là aussi, de nouveau, on parlait d'automatisme, de raccourcis, etc. Et bah, ça s'installe aussi dans le couple. On se rend compte que bah, oui, c'est toujours lui qui va sortir la poubelle, c'est toujours elle qui va faire la vaisselle, c'est toujours... Et on se dit, mais en fait, non, j'ai plus envie. Donc, retrouver un peu ce côté, OK, on va séparer et partager. Ou en tout cas, voilà, essayer de communiquer sur ça, parce que peut-être qu'il y a eu des prises d'habitude qui, en fait, avaient sens à un certain moment et qui n'ont plus de sens aujourd'hui. Donc c'est très voilà, ça rejoint un peu la naturopathie dans l'hygiène de vie, sauf que c'est l'hygiène du couple en fait.
Ouais. Et je me demande même du coup à quel point le sommeil, le stress, on en a parlé, l'alimentation et l'activité physique a un impact sur la qualité de notre désir.
Tout à fait.
Et de notre vie sexuelle.
Ouais, elle a un grand impact parce que bah, tout simplement parce que bah, si on est fatigué, on va avoir moins envie parce que bah, ça demande plus d'énergie. Si on mange pas bien, pareil, on va pas s'en sortir forcément très bien, parce qu'on va avoir des carences, on va avoir des inflammations. De nouveau, on n'a pas envie. Et c'est vraiment en fait quelque chose qui ressort à force de travailler du coup avec ce côté plus donc hygiène de vie, de se dire, ok, le sport pareil. Si on ne bouge pas, on met pas en route voilà des hormones en fait de bien-être qui font que ok, on a plus d'envie, enfin, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais de se dire, oh, j'ai pas envie d'aller au sport, là, mon cours de badminton, mon cours de je ne sais quoi. Et en fait, il va, et après coup, je dis, oh, heureusement que je suis allée, ça m'a fait du bien. Il y en a plus d'envie quand on bouge.
Oui, même quand il fait pas beau, et au final, on annule tout, et en fait, on n'a plus envie de rien faire. Quoi.
Exactement. Oui, c'est tellement facile de perdre la motivation, et pourtant, c'est en vivant qu'on va la retrouver. Et souvent, on dit, ok, mais voilà, si t'as pas faim, ne mange pas. C'est pareil pour la libido. Si t'as pas de libido, si t'as pas envie, bah, tu te forces pas. Tu vas pas manger à gratin alors que t'as pas envie. Tu vas pas manger une raclette, etc. Mais déjà, je trouve que c'est un peu limité dans le sens où t'es pas seul à manger ta raclette. Hein. C'est quelqu'un d'autre aussi qui te demande, qui te propose potentiellement, est-ce que tu veux une raclette ? Et tu dis non, bah du coup, lui, il peut pas manger non plus alors qu'il a super faim.
J'adore la métaphore de la raclette, là, tout le long.
J'aime beaucoup la raclette, mais en même temps, c'est très lourd, tu vois. Donc... Mais c'est vrai qu'on peut pas forcer. Mais l'idée, c'est pas forcément de juste proposer est-ce que tu veux une raclette, c'est de dire bah tiens, on va sortir manger, bah tiens, on peut aller à ce restaurant là, tiens, il y a un menu. Et de tout prendre en compte, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand on a la journée dans les pattes, c'est plus compliqué de faire monter un désir. Parce que bah, on a eu plein de choses, souvent on était au travail, on a été assise, on a dû gérer des crises, on rentre, il y a bien sûr plein de choses à faire. Mmh. C'est très, très compliqué. Et du coup, même pour les couples qui sont, qui décident, OK, bah, ce soir, on a un petit rendez-vous amoureux, ouais, tous les deux. Eh bien, on propose, donc ça, c'est Esther Perel, qui est du coup une thérapeute de couple, qui propose carrément d'avoir un rapport avant de sortir, plutôt qu'après. Parce qu'après, bah, si tu es sortie, potentiellement, t'es allée manger, potentiellement, t'es allée au cinéma.
C'est pour la raclette.
Voilà, t'as mangé une bonne raclette. T'es pas super sexy. Ouais. Bon, tu rentres, t'as envie de te coucher. Ouais. Donc, on le fait avant ou même carrément pendant la journée. Hein, de petite pause, on se retrouve à la maison le midi et on a un rapport. Donc, vraiment, ça prend en compte en fait le fait que on ne peut pas toujours vivre au rythme de la société. Parce que la société fait que...
On travaille la journée.
Exactement. Donc, on a vraiment ce conflit et ça, c'est pareil avec le segment menstruel. Tu te rends compte que la femme, du coup, s'est adaptée au rythme qui existait déjà avant. Hein. On ne va pas oublier qu'avant, c'était que les hommes qui travaillaient.
Ouais.
Donc maintenant, on fait pareil, sauf qu'en fait, on n'a pas les mêmes besoins et que nous, on a ce cadeau, hein, pour moi, c'est vraiment un cadeau, qui est que le cycle va nous dire, en fait, si ce rythme ne nous correspond pas. Donc, ben voilà, on va se retrouver avec des douleurs en plus qu'on peut parfois gérer et parfois, malheureusement, on ne peut pas.
Quand on a préparé ce podcast, tu m'avais donné une petite anecdote sur le confinement. Parce que ça reflétait un peu le... C'était soit 50-50 avec le temps, le sommeil, l'alimentation. Est-ce que tu peux me redire ça devant la caméra?
Oui, oui, bah, le confinement, c'était un moment très particulier, hein, dans l'histoire. Et on a vu un peu de tout. On a vu donc, des couples qui, au contraire, voilà, à cause de cette pandémie, se disaient bah, « Ok, maintenant, je vais prendre soin de moi. Maintenant, je vais bien dormir. Vu que je n'ai pas les transports à prendre, je peux dormir plus. Essayer de bien manger pour prendre soin de mon système immunitaire, en premier lieu. Et du coup, tout ça avait bah, plutôt une bonne influence sur la libido et il y avait plus de désir. Pour d'autres, c'était le contraire, dans le sens où c'était confinement, je ne bouge pas. Voilà, c'est psychologiquement compliqué, surtout si on était en plus dans une grande ville comme Paris, dans un petit appartement avec son chéri. Tout d'un coup, voilà, 20 mètres carrés, ça paraît très très petit et... on n'a plus d'espace entre l'autre et soi. Et donc, si on n'a pas d'espace, on n'a pas la possibilité de manquer à l'autre et on n'a pas le temps de... Voilà, on ne peut pas sortir, on ne va pas forcément faire super bien, enfin, se faire à manger bien chaque fois, on ne va pas forcément bien dormir, on va être stressé, etc. Et du coup, c'était au contraire, aucune libido, voire des ruptures. Donc, c'était très intéressant de voir que pendant, mais surtout du coup après, parce que moi, j'ai commencé à me certifier en 2020, à voir à quel point en fait la pandémie avait un effet sur les couples et que je pense qu'on n'a pas encore bien étudié le sujet. Il y a tellement de témoignages à récolter sur ça parce que vraiment, moi en plus de nouveau je suis biaisée parce qu'on vient me voir quand il y a un problème de cycle ou quand il y a un désir de grossesse ou il y a un désir de contraception naturelle. Donc c'est une certaine personne, voilà, c'est pas tout le monde. Mais si on pouvait prendre un peu tous les témoignages des couples, comment ça se passait. C'est comme en Chine, on disait qu'à la fin du premier confinement, il y a eu je ne sais pas combien de divorces.
Ah ouais.
Ah ouais, c'était énorme. Et du coup, voilà, qui étudie ça? Qui est en train de préparer des études pour montrer l'impact sur le moment et l'impact maintenant qu'il n'y a plus de confinement.
Ouais. Ou des baby confinements qui sont nés là.
Ouais. Ouais, c'est-à-dire que... Alors après, là, c'est pareil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y en a qui...
Il y en a qui se sont dit, la vie est courte, voilà, on a envie de procréer. Mais beaucoup, beaucoup de personnes se sont dit, non, là, les bébés, c'est pas le moment. On ne sait pas de quoi va être fait demain. Et puis, il y en a pour qui ce n'était pas forcément prévu. Mais oui, en effet, avec le fait que la connexion, la peur de nouveau, hein, ça dépend de chaque couple, eh bien, on peut avoir envie de se retrouver et ça tombe au moment où la femme est fertile, donc le couple est fertile, grossesse, surprise, et voilà.
Et avec, le temps passé, là, en confinement, on peut vite voir les décalages de libido entre les hommes et les femmes, par exemple. Comment on peut naviguer ce décalage de désir?
Oui, donc là, de nouveau, c'est une déconstruction. En effet, il peut y avoir un décalage de désir et ça peut être très frustrant. Ça peut être extrêmement blessant pour celui qui se fait rejeter, qui propose celle. Ouais, parce que souvent c'est celle. On n'en parle pas
Ah oui?
beaucoup, mais ouais. Et je trouve que le plus on prend de l'âge, le plus c'est elle qui se fait rejeter. Donc
Ok.
intéressant. De nouveau, c'est à mon échelle, mais c'est ce que je remarque. Et c'est vrai que du coup, on a ce rôle en fait de se dire qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a un rejet? Et c'est pas à prendre personnellement. C'est pas à cause d'un stress. C'est à cause du sommeil. C'est à cause potentiellement des hormones. Voilà. On peut aussi dire que mais toujours garder l'invitation, en fait, toujours comprendre que c'est pas je vais te forcer à manger, c'est de nouveau, et si on allait au restaurant? Et si on regardait le menu? Et comprendre de nouveau que pour la femme, c'est le désir avant l'excitation, alors que pour l'homme, ça peut être l'excitation avant le désir. Mais de nouveau, pour l'homme, c'est pas toujours, ok, c'est bon, t'as envie? Oh, oui, bien sûr que j'ai envie. Donc, naviguer ça et voir un peu, ok. Pour vous, qu'est-ce qui est une façon peut-être sans conflit de communiquer? Par exemple, le tissu. Ça, j'ai trouvé ça très, très
Le
malin.
tissu.
Ouais, dans l'histoire dont je parlais tout à l'heure, il y avait un couple qui utilisait un tissu et
Ah oui,
s'il le
d'accord.
mettait dans l'autre sens, ça
J'étais
voulait dire
restée
que
sur
non.
les fleurs, moi.
Oui, pardon. Oui, en effet, les fleurs, c'était plus poétique. Mais c'était juste pour signaler que c'est bon, on est en phase infertile. Alors que vraiment, pour certains couples, c'est je suis ouverte, est-ce que toi tu l'es aussi? Ou je suis ouverte, est-ce que toi tu l'es aussi? Donc, ça permet de ne pas utiliser des mots parce qu'on peut être plus blessé par des mots que par un bout de
Oui.
tissu qui est mis
Oui,
d'un sens
dire
dans l'autre.
non
Voilà, exactement.
plusieurs fois
Voilà.
dans le mois.
Ouais. Surtout que des fois, c'est. Voilà, le matin, on se prépare, c'est ce soir, tu voudrais pas qu'on se
Oui, mais
retrouve
tu
un
sais
peu?
pas comment
Et
tu
tu
seras
sais
ce
pas comment tu
soir.
seras.
Ouais.
Ouais. Et t'arrives le soir et du coup, l'autre peut dire, mais toute la journée, je me disais,
J'ai
ben moi, j'ai. Voilà,
attendu.
j'ai anticipé. Parce qu'il y a aussi cette anticipation qui est aussi. Qui fait partie du désir, qui fait partie de l'excitation, qui fait partie de l'expérience. C'est pour ça que j'aime pas du tout quand on parle de préliminaire, parce que ça a rien à voir. Enfin, ça fait partie du rapport. Beaucoup, beaucoup de choses font partie en fait de l'intimité, de la libido, qui vont venir nourrir la libido. Mais on peut changer d'avis. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est compliqué à comprendre dans le sens où. Donc les femmes surtout se forcent, que les hommes, on va pas se mentir, c'est un peu plus compliqué hein, pour eux de se forcer, alors qu'une femme, bah, t'es un peu sèche, je vais utiliser du lubrifiant. Donc attention à ça, bien sûr qu'il y a parfois besoin, mais c'est pas que ça. Eh bien, on va essayer de comprendre que dans le script qu'on a créé ensemble, on peut toujours changer d'avis. C'est pas parce qu'on est nu qu'on ne peut pas changer d'avis. C'est pas parce qu'il y a une pénétration qu'on ne peut pas changer d'avis. Et vraiment toujours être ouvert. Et aussi bah, déconstruire un peu tout ce qu'on a appris sur la sexualité, que la sexualité, c'est en effet un rapport qui commence avec une pénétration et qui se termine à l'éjaculation. Ça, on va pas se mentir, c'est quand même ce qu'on retrouve presque partout quand on regarde voilà, dans les livres, dans les films, bien sûr dans la pornographie. C'est quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'est pas réel, qui ne reflète pas la réalité. Donc on a besoin de comprendre qu'au final, avoir envie, ça peut être avoir envie d'un massage, d'un toucher, d'un regard, d'un échange. Surtout les femmes, on a
D'une
souvent besoin de.
intimité
Voilà,
plus
exactement.
que d'un rapport.
Exactement. Souvent, je parle d'intimité et c'est beaucoup plus large et beaucoup plus vague. Et soit on aime bien, soit on n'aime pas parce qu'on se dit, bah justement, intimité, ça veut tout et rien dire. Mais c'est ça que j'aime bien, c'est que, bah, en fait, oui, c'est vous qui allez mettre le sens que vous voulez dedans. Et comprendre que, bah oui, c'est pas juste pénétration. Ou circlusion. Il y a des femmes qui parlent maintenant de circlusion pour dire que c'est donc le vagin qui va hop, sur le pénis et pas le pénis qui rentre dans le vagin, pour reprendre un peu ce pouvoir.
Est-ce que, du coup, quand il y a un décalage chez quelqu'un, on peut quand même soutenir la libido naturellement? Je pensais immédiatement là aux aphrodisiaques, mais j'imagine qu'en général, voilà, il faut être bien dans son corps pour pouvoir espérer avoir une bonne libido. Mais est-ce qu'il y a quand même des petites choses qu'on peut tester?
Oui, non. On a envie de la pilule un peu magique, de la solution, de OK, voilà, tiens, dis-moi ce que je peux faire. Donc, bien sûr, comme tu dis, hein, il faut être bien dans son corps, bien dans sa tête. J'aime pas dire il faut, mais bon, pour le coup, c'est un besoin dont on a besoin. C'est un besoin
Oui,
dont
pour
on a besoin
vivre.
pour vivre bien. Mais c'est vrai que bien sûr qu'on peut avoir des aides extérieures, donc des compléments alimentaires notamment, des. Voilà, activités sportives ou autres, quelque chose qui va en fait nous permettre de remettre en mouvement du coup notre propre personne, de se sentir bien. Alors des fois c'est voilà, du sport, des fois c'est une activité,
Un hobby.
voilà un hobby, hein, bracelet brésilien,
Voilà. Ou
peinture sur
social
soi
aussi.
ou sociale, se retrouver entre filles, se retrouver avec ses amis, enfin vers quelque chose qui nous plaît, retrouver du plaisir autre que sexuel, et aussi bah, potentiellement voir, ok, où est-ce qu'il y a des équilibres, des carences. Est-ce que bah, le niveau sommeil, ok, il y a la quantité, mais quand même, c'est pas suffisant. Bah, peut-être que c'est la qualité.
Ouais.
Ah, tiens, il y a un déséquilibre hormonal. Bon, tiens, on va du coup venir travailler là-dessus. Ah, il y a pas assez de magnésium, pas assez de zinc, pas assez de n'importe quoi. Enfin, vraiment, ça peut être une grande chose où il y a une fatigue surrénale. Il y a beaucoup de choses à venir creuser pour vérifier. Ok, est-ce que maintenant qu'on a vraiment identifié qu'il y a quelque chose, qu'il y a un besoin de plus de libido, qu'est-ce qu'on peut faire pour venir aider ?
Il faut creuser la cause aussi derrière le manque de libido.
Exactement.
Et du coup, ce serait quoi les complément t'as dit magnésium, zinc ?
Zinc, oui.
Parce qu'il y a des carences ?
Oui, il y a souvent des carences. Alors, magnésium, en plus, il est très sensible au stress. Dès qu'on est stressé, ça puise dans les réserves de magnésium, donc on a souvent des carences en magnésium aujourd'hui. Même la vitamine D, il y a des liens avec la libido. La vitamine B aussi. Enfin, vraiment, quand on cause le sujet, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Après, on peut trouver ça par l'alimentation. On parle des huîtres, par exemple, comme étant aphrodisiaque. Parce que voilà, c'est très suggestif comme, comme façon de manger.
Bien les vendre, du coup.
Voilà. Mais c'est aussi parce qu'il bah, y a du zinc.
Ouais, dedans.
Dedans. Et c'est, bah, pour le coup, c'est alimentaire. Donc, c'est vrai que c'est en plus très riche parce que c'est très complet. Il y a aussi ça, la question toujours pour les compléments alimentaires de la qualité. Donc, c'est très intéressant de prendre l'aliment en lui-même, mais de comprendre pourquoi est-ce qu'on le prend et qu'est-ce qui fait que bah, on va mieux. Et toujours s'écouter en se disant, ah oui, j'ai remarqué qu'en effet, ça va mieux après que j'ai mangé telle ou telle chose ou après que j'ai commencé tel ou tel complément. Il y en a pour qui un complément marchera très bien, alors que pour une autre personne, ça ne marchera pas du tout. Ou au contraire, ça pourrait même aggraver. Donc, il faut vraiment écouter donc soit un professionnel, une professionnelle, soit et ou s'écouter soi.
Et du coup, pas d'aphrodisiaque. Parce que je connais le chocolat, ouais, le safran, la maca.
Oui,
aussi.
La maca est très intéressante. Alors, c'est quelque chose qui nous vient d'ailleurs. Hein, donc c'est très exotique en plus. C'est un peu comme le ginseng. Mais, ou les ginkgo, ou la shwagandha. Enfin, vraiment, il y a pas mal de... Ou shatavari. Enfin, vraiment, il y a plein de choses qui nous viennent des deux côtés du monde. Et c'est vrai que c'est très bon. La maca, d'ailleurs, on l'appelle le Viagra de l'Amérique latine.
Ah oui ?
Ouais, ouais, ouais. Il marche très bien. Alors, de nouveau, souvent, c'est pour l'homme ou la femme. Hein, ça va marcher dans les deux sens. On a aussi des plantes qui vont venir aider, qui sont plus locales. On a des plantes qui vont venir plus agir sur la sécheresse vaginale, par exemple. On ne va pas oublier, en plus, les oméga-3, hein, les bons gras. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important. Et malheureusement, beaucoup de femmes ont encore peur du gras en se disant « je vais être grasse à cause du gras ». Non, on a besoin du gras pour faire du bon cholestérol. Alors, je parle du bon gras, hein, c'est-à-dire voilà, les avocats, le jaune coulant, les graines, ce genre de choses. Vraiment important d'en avoir pour créer du bon cholestérol, pour fabriquer les belles hormones dont on a besoin pour bah, être en bonne santé. Donc, c'est vraiment une question, en fait, de aphrodisiaque, oui, mais aussi de comprendre sur quoi ça agit. Par exemple, là, les plantes que tu as mentionnées, c'est des plantes adaptogènes qui vont venir surtout travailler, du coup, sur le système entier, mais par rapport au stress, pour s'adapter et pour voir, du coup, mieux gérer. Donc, c'est très bien. Alors, c'est toujours à prendre en cure, pas forcément pour toujours, mais ça permet, en effet, de retrouver un petit peu une stabilité émotionnelle.
Bon bah merci en tout cas. C'est vrai qu'on a toute une ligne de libido, que ce soit pour les hommes, pour la femme. Et du coup, on essaye un peu de récupérer toutes ces plantes, les mettre ensemble pour justement pouvoir tester aussi. Parce que bah des fois, c'est pas que ces plantes-là, comme tu dis, il y a des carences et tout. Et ensuite, il y a beaucoup d'éducation aussi à faire, comme tu as dit, de l'auto-observation. Donc, c'est un mix de tout ça, au final. Et si, aujourd'hui, tu trouves qu'il manque quelque chose pour parler de sexualité, pour parler de libido, tu penses à quoi ? Plus d'éducation, moins de tabous, moins de pression, c'est quoi que tu privilégierais ?
Ouais, dans ta liste, là, ce qui me vient, c'est plus la question de pression.
Ouais.
Il y a encore beaucoup, beaucoup de pression. Certainement parce que bah, on a tellement montré des images de couple qu'on se dit de toute façon, c'est comme ça. On cherche toujours un modèle. Inconsciemment ou consciemment, c'est Voilà, qu'est-ce qui est normal? Est-ce que je suis normale? Donc, de nouveau, on va reparler, parce que c'est très important, de ce qu'on voit dans les films, de ce qu'on voit sur, dans le porno, parce que ça joue un rôle sur nous, et je pense qu'on le voit aujourd'hui, de nouveau, c'est par rapport à ce que j'entends, mais apparemment, les jeunes seraient moins intéressés par une vie sexuelle, et je me demande si ce n'est pas à cause de cette relation qu'on a avec le corps aujourd'hui, qui est de le montrer sous toutes les coutures, de le photoshopper à fond, et quand on le voit aussi près, d'une façon aussi détaillée, et ben il est forcément moins mystérieux. Et d'un côté, c'est bien de ne pas avoir de mystère. Il existe une série en Suède qui montrait des corps, en fait, d'hommes ou de femmes nus aux enfants. C'est-à-dire, voilà, ça, c'est un homme, ça, c'est une femme. Voilà. C'est autre chose de le voir dans un acte sexuel qui peut être très violent et qui, en plus, souvent, suit un script pour donner du plaisir au lecteur, enfin lectrice, enfin celui qui regarde la vidéo, et c'est souvent un homme qui va regarder la vidéo. Donc c'est souvent pour son regard à lui, donc c'est de nouveau un plaisir qui est propre à chacun, un plaisir qui est en plus avec l'œil masculin, et qui fait que si un enfant regarde ça, parce qu'on va pas se mentir, la pornographie c'est partout maintenant, on a des études qui montrent que c'est à partir de 6 ans ou 7 ans, on peut voir des images pour la première fois, le corps il est moins intéressant ou même il fait peur. Enfin, ça devient quelque chose qui, en fait, devient une injonction de plus. Que si on a un rapport, ça sera comme ça. Et qu'on n'a pas envie de ça, donc on est moins intéressant. En plus de tout ce qui est, bien sûr, bien-être partout avec les perturbateurs endocriniens, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont un impact sur nous, et donc un impact sur la libido, et qui font qu'on est moins intéressés, enfin les jeunes en tout cas semblent moins intéressés par une sexualité comme les générations d'avant.
Et est-ce que la libido du coup ça peut devenir une charge mentale aussi?
Ah mais c'est déjà une charge mentale, hein. De toute manière la libido, de savoir est-ce que j'en ai assez ou pas, celle qui écoute et ceux qui écoutent ce podcast à mon avis, c'est qu'ils recherchent déjà une solution, ils se posent la question, donc c'est une charge mentale de se dire oui, est-ce que je le fais assez? Est-ce que je devrais le faire du coup moins aussi? Est-ce que je devrais le faire plus? Est-ce que j'ai ce problème de de pas désirer ma partenaire alors qu'au début oui? Est-ce que c'est un mauvais signe? Enfin, vraiment beaucoup de questions et ça on les garde dans sa tête pendant un petit moment avant de commencer à faire les recherches. Donc ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir et c'est surtout une question de déconstruction. C'est le mot clé là aujourd'hui.
Si on veut faire des recherches, qu'est-ce que tu nous recommandes comme source, comme chose à voir, à lire, à écouter?
Alors, il y a le conte de Thérèse Argot qui parle beaucoup de justement de l'impact de la pornographie sur nous. Il y a le conte Orgasme et moi qui parle beaucoup de la sexualité et qui rend beaucoup de choses accessibles, qui déconstruit de nouveau ce fameux mot, tout ce qu'on pense savoir sur la sexualité.
Et qui compte Insta.
Mon compte Instagram, donc mes cycles, mes règles. Il y a aussi le livre d'Alexandre Lacroix qui s'intitule Apprendre à faire l'amour, qui là aussi propose de revoir un peu tous nos scripts et pourquoi est-ce qu'on pense qu'une sexualité c'est comme ça. Et c'est tout ce qui me vient en tête pour l'instant.
Et toi, tu fais un atelier bientôt?
Oui, tout à fait. Moi, je vais donc enseigner le 3 septembre. Comment est-ce qu'on peut utiliser la sertothermie pour observer son cycle, donc avec la glaire, la température, comment est-ce qu'on remplit un cyclogramme pour comprendre en fait ses cycles, donc comment observer son cycle pour le comprendre. Donc oui, je donne ça le 3 septembre.
Donc il faut te suivre sur Instagram pour te tenir au courant.
Exactement, on s'inscrit via un lien que je posterai sur Instagram, donc à la suite de ce podcast. Donc ouais, suivez-moi et vous aurez les informations.
Trop bien. Merci vraiment beaucoup pour tous tes conseils. Je pense que c'était bien de prendre le temps vraiment de déconstruire, de voir toutes les fluctuations libido, d'enlever un peu la pression aussi sur nous-mêmes. Et pour celles et ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout, n'hésitez pas à nous mettre un petit j'aime, un commentaire, même à nous poser des questions si vous avez envie. Ça aide tout le monde, je pense. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite de prendre soin de vous avec Sana Natural et on se dit à très bientôt. Au revoir. J'avais une question bonus aussi. Qu'est-ce que tu prends toi comme complément alimentaire si t'en prends?
Oui, qu'est-ce que je prends? Donc, j'en prends de la vitamine D en ce moment. J'habite en Suède, donc il y a un peu besoin. Et je prends là, pour le moment, quelque chose pour mon système immunitaire aussi, pour venir le booster. Parce que
Ouais, c'est quoi?
c'est de l'astragale.
L'astragale. Ah oui, on en a aussi un extrait.
Ouais.
Ok, bah c'est super. Merci.
Avec plaisir.